Vous écoutez
RMC. RMC, midi, 14h, Neumann Le Chypre.
Laurent Neumann, Emmanuel Le Chypre et Laure Clauzier.
Salut les amis, très heureux de vous retrouver. Mais oui, on va débattre jusqu'à 14h, c'est Laurent Neumann.
Bon appétit tout le monde, c'est Emmanuel Le Chypre.
Bonjour à tous, c'est Laure Clauzier, on est ensemble sur RMC Story. Fin des jauges dans les restaurants, retour des festivals en extérieur, plus de restrictions pour les mariages. Est-ce qu'on ne déconfine pas trop vite? C'est notre question jusqu'à 13h, une question à laquelle va répondre notre star des réseaux sociaux depuis hier. Emmanuel, mais quel succès! Hier, il y avait toi en top tweet et la mère d'Adrien Rabiot.
Oui, écoute, bah oui, je ne connais pas Madame Rabiot. écoute, je ne sais pas ce qu'elle a fait pour mériter ça. Écoute, mais non, mais notre émission d'hier a été un peu, effectivement, voilà, animée. Alors moi, tu sais, quand j'ai appris le
donc
journalisme...
Donc hier, on parlait de la question,
on parlait de la question
vaccin et d'arrêter de rembourser les tests de confort.
Absolument, absolument. Et on en est arrivé à la question, est-ce qu'il faut rendre la vaccination obligatoire ou pas? Donc si tu veux, moi, mes maîtres en journalisme m'ont dit, il faut exagérer et simplifier. Donc oui, j'ai exagéré et simplifié. J'ai dit, effectivement, que, ah ouais, ceux qui veulent pas se faire vacciner, hop, allez, on les vaccine de force. Alors j'ai employé l'expression « mais les menottes », etc. Mais franchement, c'était une image. Voilà, bien évidemment, il s'agit pas de le faire en vrai. Mais il s'agissait de faire comprendre quand même que, un, aujourd'hui, oui, moi je pense qu'il faut que la vaccination soit obligatoire. Parce qu'on voit bien qu'effectivement, tous les gens qui sont contre le vaccin aujourd'hui, on ne peut plus les convaincre. Donc c'était à un moment, il faut que la loi s'impose. Voilà, c'est tout. Et il s'agissait pas, évidemment, de mettre les gens dans des cars, dans des bus, menottés pour aller les faire vacciner, bien évidemment. C'était une image qui était... parlante et pédagogique.
Et puis je pense que tous ceux qui nous écoutent maintenant depuis des mois et des mois savent qu'avec Emmanuel Le Chypre, tout ce qui n'est pas interdit doit être obligatoire. Enfin, je comprends pas que ça vous étonne.
En tout cas, on a d'autres sujets pour toi, pour t'énerver. Oui, la retraite à 64 ans, ça sera notre sujet à 13h. Est-ce qu'il faut travailler plus longtemps? Et puis on jouera au C'est quoi ça, midi 50, notre jeu sur l'actualité a gagné cette semaine. Un séjour dans les résidences Noémie pour 4 personnes. Vous pourrez choisir les Pyrénées, Alpes du Sud, Savoie ou Alpes du Nord pour jouer avec nous et gagner votre séjour. Vous envoyez JEU par SMS au 732-16. Retour à la vie presque normale. Nous sommes le 30 juin, c'est donc le début de la dernière phase du déconfinement. Les restrictions sont levées dans une grande partie des lieux accueillant du public. Fin des jauges dans les restaurants, retour des festivals en extérieur, plus de restrictions pour les mariages. Vous pouvez même enlever votre masque si vous êtes à plus de 2 mètres au bureau. Dans les magasins, il n'y a plus la jauge des 4 mètres carrés par client. Les salons et les foires d'exposition, il y a quand même un pass sanitaire au-delà de 1000 personnes. Mais quand même, la vie normale avec une épée de Damoclès, le variant Delta, 20% des cas de Covid dans le pays désormais. D'ailleurs, vous l'avez entendu dans le journal, le département des Landes choisit de garder les restrictions jusqu'au 6 juillet inclus. C'est là où il y a la souche Delta la plus importante en France. Alors la contagion va-t-elle reprendre à l'automne? C'est toute la question. Arnaud Fontanet, épidémiologiste et membre du conseil scientifique, était ce matin avec Jean-Jacques Bourdin. On l'écoute.
On voit qu'à la rentrée, on aura très vraisemblablement une augmentation du nombre de cas. Et c'est vraiment là où le message sur les vaccins est extrêmement important. C'est qu'avec des vaccins 2 doses qui protègent à 95% contre les hospitalisations, il y a une façon très simple de faire que cette 4e vague ne soit pas une vague qui mette en tension les systèmes hospitaliers. Je pense qu'on peut tout à fait réouvrir et profiter de ces mesures qui ont été levées pour reprendre une vie beaucoup plus agréable pour nous en profitant des loisirs, des rencontres, des réunions. Ne faisons pas n'importe quoi pour autant. Et on aura un été qui sera... qui devrait bien se passer d'un point de vue sanitaire.
Mais
profitons de cette période de l'été pour se vacciner.
Arnaud Fontanet qui était rassurant et prudent à la fois. Alors, est-ce qu'on ne déconfine pas trop vite? Pour Emmanuel, toi, c'est oui.
Bah oui, parce que quand on a pris toutes ces décisions de ce calendrier de déconfinement, on était dans une phase descendante de l'épidémie. Or, moi, je suis désolé, mais je regarde ce qui se passe à l'étranger et jusqu'à preuve du contraire, on n'est jamais resté finalement indépendant, autonome, à l'écart de tout ce qui se passait à l'étranger. Quand l'épidémie est repartie à l'étranger, elle a toujours fini par repartir en France. Or, ce qui se passe tout près de chez nous, au Royaume-Uni, par exemple, est quand même extrêmement préoccupant. Je vous rappelle que on était à moins de 2000 contaminations par jour début mai, que mi-juin on était à 9000 contaminations par jour et qu'on est aujourd'hui à 18000 contaminations par jour avec ce fameux variant Delta, dans un pays qui a confiné violemment, dans un pays qui a vacciné beaucoup, donc nos frontières ne sont pas fermées. Donc le variant Delta, il est bien là, il circule. Il y a aujourd'hui tout un tas de pays qui prennent des mesures de durcissement, des mesures de reconfinement. Il y a le Portugal, il y a l'Angleterre, il y a l'Australie. Donc, moi, je trouve que on est quand même un peu à contre-courant. Tout rouvrir quasiment aujourd'hui, moi, pour moi, on est à contre-courant et on prend beaucoup de risques pour non seulement la rentrée, mais peut-être même pour cet été.
Laurent, pour toi, les restrictions, ça ne sert plus à rien.
Bah, c'est pas ça, c'est que Emmanuel, à chaque fois qu'il défend cette thèse-là, il cite les chiffres de la Grande-Bretagne, mais il faut citer les chiffres de la France. Pourquoi tu le fais pas? Les chiffres de la France, on est seulement à un quart des lits de réanimation occupés. Hier, il y a 29 personnes qui sont rentrées en réanimation. Il n'y a plus que 1200 personnes en réanimation, donc en situation critique, en soins intensifs. On n'a jamais été aussi bas depuis des mois et des mois. Le fameux taux d'incidence, on est tombé, j'en croyais pas mes yeux, j'ai cru qu'il y avait une erreur sur mon application. On est tombé à 18 pour 100 000. Le seuil critique était de 50. Souvenez-vous, on était monté à 600, à 900 même dans certains départements. Là, on est à 18. 18 sur l'ensemble de la France. Il y a une petite exception, tu l'as dit Laure, ce sont les Landes. Les Landes ont décidé de repousser de 7 jours la levée des restrictions et c'est assez logique à cause du variant Delta. Mais moi, je trouve que tous les chiffres que tu as cités en Grande-Bretagne, c'est pas une pub pour reconfiner ou pour maintenir les restrictions, c'est une formidable publicité pour aller se faire vacciner. Et on va pas refaire le débat qu'on a eu hier, mais allez vous vacciner, mon sang de bonsoir. Parce qu'il y a une deuxième raison d'aller se faire vacciner, c'est que peut-être que tu vas avoir raison, d'ailleurs Fontanelle disait, peut-être qu'à la rentrée, on va avoir une quatrième vague qui ne ressemblera sans doute pas aux autres. Mais si on veut s'éviter le retour des restrictions sanitaires, mais bon sang, allez vous faire vacciner. C'est ça le sujet, de mon point de vue en tout cas. Et puis il y a un deuxième sujet dont on ne parle pas, ou trop peu à mon avis, c'est que la levée des restrictions ne veut pas dire la fin des gestes barrières. Le port du masque quand on est en groupe, le fait d'aller se laver les mains quand on rentre dans un magasin, le fameux gel hydroalcoolique, tout ça, personne n'a jamais dit qu'on arrêtait tout ça. Il faut continuer à faire tout ça. Donc si on va se faire vacciner et si on fait attention à ces gestes barrières, bah oui, je pense qu'on fait bien de lever les restrictions, mais bon sang,
Laurent,
je le répète, allez vous faire vacciner.
À chaque fois, l'épidémie elle a jamais progressé au même rythme selon les pays. Tu peux pas te dire, ah bah nous nos chiffres sont bons, tout va bien, youpla boum, sans tenir compte de ce qui se passe à l'étranger, puisque encore une fois, à chaque vague de l'épidémie, ce qui s'est passé en France, c'est ce qui s'était passé ailleurs, avec un décalage. Donc, on peut se réjouir aujourd'hui de la photo que tu fais, mais je pense que c'est quand même relativement
risqué. Emmanuel, comme je sais que tu es un type qui a de la mémoire, tu te souviens que depuis le mois de janvier, toi et moi, on s'écharpe toujours sur le même sujet. On ne peut pas dire aux Français, lorsque les chiffres sont mauvais, on prend des mesures restrictives, mais lorsque les chiffres sont bons, on les prend aussi. Parce que alors du coup on les prend tout le temps. Du coup on reste fermé, on reste en couvre-feu, on confine, on continue à maintenir les restrictions sanitaires, même quand ça va bien, au prétexte qu'autour de nous ça irait moins bien.
La réalité c'est que du coup tu passes ton temps à ouvrir, à fermer, oui.
Il y a des graves dans les mesures sanitaires.
Ben, c'est peut-être mieux que de laisser tout fermer tout le temps. Voilà.
Lisa Marie, bonjour. On peut voter sur les réseaux sociaux.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous rappelle notre question. Est-ce qu'on ne déconfine pas trop vite? Pour nous répondre, direction Twitter, Facebook et l'application RMC depuis votre téléphone.
RMC, Neumann le Chypre.
32-16. Je rappelle que depuis le début qu'on fait des émissions sur le Covid, on est toujours à 50-50 sur les votes, sur les réseaux sociaux. Alors peut-être que là, ça va changer. On est avec Christophe qui nous appelle depuis Strasbourg, qui est cadre commercial. Bonjour Christophe.
Bonjour.
Salut Christophe.
Toi, tu es plutôt côté Emmanuel le Chypre. Tu penses qu'on déconfine trop vite?
Complètement. Et alors, je vais rejoindre Laurent Neumann sur le fait que ça doit être le premier argument pour pousser à la vaccination, sauf qu'il y a toujours autant de réfractaires à la vaccination. Donc la question, c'est on fait quoi? Moi, je prends pour exemple maintenant mon assurance auto. Je suis assuré en tout risque. Et pourtant, si j'ai un accident et que j'ai le téléphone au volant, bah, malheureusement, l'assurance ne me couvrira pas. Donc je vais faire le parallèle avec la vaccination. Et ben, moi, je serais d'avis de dire, ben, si je suis hospitalisé, mais que j'ai pas été vacciné, alors que j'ai la possibilité de, eh ben c'est pour ma pomme. C'est-à-dire que les frais qui sont engrangés, ben c'est pour ma pomme.
Alors, t'es pas le premier à faire cette proposition. Toi, Laurent, t'as toujours été contre. Hein.
Oui, parce que
mais c'est que en tapant dans le porte-monnaie que les gens finalement prendront la décision de dire ah oui, ok, tout le monde veut revenir à une vie normale, mais il y a encore l'égalité.
Tu touches à l'égalité de soins.
Oui, mais regarde, ta théorie, elle tient pas, Christophe. Je vais te prendre un exemple. Donc, quelqu'un qui boit plus de 2 verres de vin par semaine et qui se retrouve avec une maladie de longue durée, cirrhose, diabète, tout ce que tu veux, etc. On dit ah bah attendez. vous êtes mal comporté, donc vous allez payer vos frais de santé. Le fumeur qui se retrouve avec un cancer du poumon, on lui dit votre cancer, vous allez vous le payer vous-même. Et pourtant, il y a des gens qui attrapent un cancer du poumon, ils n'ont jamais fumé une cigarette. Alors, là, qu'est-ce qu'on fait?
Là, la cirrhose du foie, est-ce qu'elle va pénaliser une économie nationale, internationale? Est-ce qu'elle va confiner? Est-ce qu'elle va, elle va restreindre des enfants à aller à l'école? Est-ce qu'elle va fermer les boîtes de nuit, les restaurants? Je ne crois
c'est
pas.
C'est vrai.
Le seul aujourd'hui virus qui pose problème, c'est le Covid ou la Covid. Donc, il faut traiter la Covid. Donc, si aujourd'hui, l'histoire de là, sur les 28 hospitalisations, j'écoutais avant les chiffres, sur les 28 qui ont été hospitalisés, combien sont vaccinés, combien ne le sont pas?
Sans doute aucun. Sans doute aucun n'était vacciné, puisque la vaccination, c'était notre débat hier qui nous a tellement enflammé. La vaccination protège à 95% des formes les plus graves, celles qui justement t'envoient en réanimation, voire peuvent te conduire à te tuer. Donc effectivement,
Christophe, il te dit qu'en 28 là, il faudrait qu'il paye.
Quand j'entends ce matin que la braderie de Lille est annulée parce que, alors je comprends l'histoire du volume. Mais entre ceux qui sont vaccinés, ceux qui sont pas vaccinés, je comprends parfaitement. Mais dans ce cas-là, vous pénalisez encore une fois aujourd'hui une minorité de vaccinés. Donc ouvrons, permettons les animations aux gens qui respectent.
J'avoue, alors ça
donc pas sanitaire pour tout.
Ouais, Christophe, je vais aller dans ton sens. J'avoue que j'ai pas compris l'histoire de la braderie de Lille. Moi, j'avais cru comprendre qu'on mettait en place un pass sanitaire pour tous les événements.
Mais là, c'est impossible.
Sauf que la braderie de Lille, impossible.
Attends. Vous êtes d'accord qu'il y a un pass sanitaire pour tous les événements à plus de 1000 personnes.
Oui, mais...
Là, effectivement, la braderie de Lille, elle est en extérieur. Mais qu'est-ce qui empêche les organisateurs de la braderie de Lille on délimite le périmètre de la braderie. Vous voulez rentrer dans le périmètre.
Mais il y a des gens qui habitent.
Laurent, c'est compliqué. Il y a des gens qui habitent.
C'est impossible.
En plus, alors toi qui, quand on voulait fermer des régions, tu disais c'est pas possible. Il y a trop d'accès. On peut pas mettre des flics partout.
Ok, tu fais une exception pour les riverains.
Ça veut dire que
tu
te rendes compte que dans la ville, ça veut dire à chaque rue mettre des contrôles, c'est impossible. Ou alors tu déclares que tu l'as fait dans un espace clos, je sais pas moi, une grande salle.
C'est plus la même chose.
Et c'est plus la même chose. Ou alors tu l'as fait dans le stade de Lille où les gens viennent sur la pelouse.
Un autre événement quoi.
Oui, c'est un autre événement, mais c'était une façon de maintenir.
Mais juste Laurent, tu y viens au pass sanitaire.
L'événement.
Petit à petit.
Mais le pass sanitaire pour les événements avec beaucoup de personnes. En intérieur, j'ai toujours dit que j'y étais favorable. Là où je continue à être défavorable, c'est le pass sanitaire pour l'organisation de la vie de tous les jours. Un pass sanitaire pour aller au restaurant, pour aller acheter ses fruits et légumes, pour aller au supermarché, etc. Je pense que ce n'est pas vivable.
Non mais Christophe, là où il a raison, c'est que sur les assurances, Christophe, quand tu dis en fonction du fait que tu fumes, que tu bois, la réalité c'est que par exemple, quand tu prends un crédit immobilier aujourd'hui, tu es quand même obligé de passer un examen médical et que en fonction de ton état de santé, tu payes une assurance plus ou moins élevée, ou bien l'assurance t'exclut carrément de certains risques, c'est-à-dire qu'elle dit ok, moi je veux bien que vous preniez l'assurance, mais je ne vous garantis pas en cas de tel risque. Donc ça existe déjà.
Et encore une fois, ces pathologies-là ne pénalisent pas une économie à l'échelle locale, régionale ou nationale. Là, ce virus, ça a un impact. On le voit bien, ce Delta, ce variant, ça vient d'Angleterre. Ça arrive en France, mais comme le variant anglais, comme la première souche certainement du Covid. Donc, dans 6 mois, on refait un point, on se rappelle et on verra, on dira ah bah oui.
Christophe, surtout que les frontières sont quand même pas hermétiques.
Christophe, juste d'un mot. Moi, je fais partie de ceux qui considèrent qu'on n'a pas encore tout fait pour aller chercher les fameux récalcitrants ou les fameux réfractaires. Je pars du principe que dans ce pays, il y a des antivax, mais ils sont ultra minoritaires. C'est aller entre peut-être 5 et 10% de la population maximum. Et donc, les 30% ou les 40% qu'on a du mal à amener au vaccin, cela, c'est au pouvoir public à faire tout ce qui est en leur pouvoir pour les amener au vaccin, sans le rendre obligatoire, sans prendre des mesures punitives. J'attends demain que la CNIL dise enfin, oui, les médecins traitants, vous pouvez avoir accès à la liste de tous vos patients non vaccinés. C'est pas attentatoire au secret médical, les médecins savent absolument tout. C'est pas du harcèlement, les médecins sont payés pour prendre soin de leurs patients. Quand on aura fait ça dans quelques semaines, dans quelques mois, quand on aura été relancé par son médecin traitant et qu'il restera encore des réfractaires, Eh ben là, je viendrai sur ton terrain, Emmanuel, et je me poserai comme toi la question du vaccin obligatoire.
Les anti-vaccins sont peut-être pas très nombreux, mais ils sont assez bruyants. Dans un instant, on sera avec Philippe Amouyel, professeur en santé publique au CHU de Lille. Un grand merci à Christophe qui est venu débattre avec nous au 32-16. Vous ne bougez pas, on revient sur RMC.
RMC, midi 14h.
Neumann Le Chypre.
RMC, midi 14h.
Neumann Le Chypre.
Neumann Le Chypre, le retour, on est ensemble jusqu'à 14h sur RMC Story. Fin des jauges dans les restaurants, retour des festivals en extérieur. Plus du tout de restrictions pour les mariages et non pas plus. C'est justement le contraire, c'est le grand déconfinement. On est le 30 juin, alors est-ce qu'on va pas trop vite pour Emmanuel Le Chypre? Oui, la quatrième vague est devant nous. Pour Laurent Neumann, non, les restrictions ne servent à rien. Le seul sujet, c'est la vaccination. Avant d'aller voir Philippe Amouyel, professeur en santé publique au CHU de Lille, Lisa Marie, quelle est la première tendance des votes?
Vous êtes pour le moment 62% à répondre non, on ne déconfine pas trop vite.
Tu vois, c'est pas 50-50
c'est
tout
vrai.
Le temps. Tu vois,
je vois que tu progresses.
Mais je progresse de jour en jour.
C'est parce que tu fais 62%, mais ça n'est pas terminé. On était avec Philippe Amouyel. Bonjour Philippe. Bonjour. Vous nous accompagnez déjà depuis un an, depuis le mois de septembre, ensemble sur les sujets sanitaires. Est-ce qu'il faut vraiment, est-ce qu'on doit s'inquiéter de ce variant Delta qui progresse très très vite?
Oui, il faut qu'on s'inquiète de ce variant Delta parce que ça montre que l'épidémie n'est pas encore terminée. On n'en est pas encore sorti, même si on a un goût de liberté qui est revenu. Mais à la différence des précédentes vagues, on a des outils aujourd'hui. On connaît mieux l'épidémie, donc on a les moyens de la stopper. Et surtout, on est redescendu à des niveaux extrêmement bas de contamination. Donc on est dans les meilleures conditions pour mettre en place un plan de lutte contre ce variant Delta et contre une éventuelle quatrième vague ou vaguelette à la rentrée.
Philippe Amouyel, mon camarade Emmanuel Le Chypre, qui ne dit pas que des bêtises, dit depuis des mois qu'il faut séquencer, qu'il faut tracer, qu'il faut isoler. Je constate qu'on est tombé à des niveaux très très bas. On est aux alentours de 2000 contaminations par jour. Je crois même que sur les trois derniers jours, on est aux alentours de 1200 contaminations, ce qui est extrêmement faible. Donc on pourrait tracer, on pourrait en tout cas séquencer les tests positifs. Et non seulement on trace peu, mais on isole quasiment pas. Est-ce que c'est pas ça la faute?
Alors, dire qu'on trace peu, non, puisque maintenant les plateformes des caisses d'assurance maladie qui sont restées à plein régime ont beaucoup moins de cas, donc peuvent tracer efficacement. Elles font même ce qu'on appelle du rétro-tracing, elles essaient de voir par qui la contamination est venue. Donc ces deux points sont très positifs. Là où ça coince un peu, c'est l'isolement, puisque vous savez qu'en France, les contraintes liées à l'isolement sont relativement faibles. C'est bien, on fait confiance aux Français. Mais sur un petit nombre de cas qui vont justement être liés à cette bas niveau de contamination, ça vaudrait peut-être le coup d'insister un peu plus, en effet, sur l'isolement.
Je vous interromps, soyons clairs. Avec le variant Delta, dont on dit qu'il est extrêmement transmissible, est-ce qu'il ne faut pas rendre l'isolement obligatoire plutôt que de s'interroger tous les matins sur la vaccination obligatoire? L'isolement obligatoire aurait peut-être des effets bien plus immédiats, non?
Ben le problème, c'est que l'isolement, il est déjà théoriquement obligatoire. L'isolement obligatoire n'a de sens que si on contrôle l'isolement, si on met en place des mesures qui permettent de savoir si les gens s'isolent bien. C'est ça le point. On peut le déclarer obligatoire, mais il faut le contrôler. Or, aujourd'hui, il y a suffisamment peu de cas pour que justement on puisse mettre en place un contrôle un petit peu plus strict et un petit peu plus direct que ce qu'on a fait jusqu'à présent.
C'est-à-dire qu'il faut aujourd'hui un plan de lutte contre le virus et surtout ne pas attendre.
Exactement. Je pense que là, le point qui est un peu positif dans ce nouveau variant, c'est que le gouvernement a anticipé. Monsieur Castex et Monsieur Véran sont descendus tout de suite au moment du cluster dans les Landes, envoient des signaux extrêmement alertants quand même pour dire que ce n'est pas fini. Et puis surtout, c'est il faut vacciner massivement parce que maintenant on a cet outil, il faut l'utiliser. On a quand même une grande partie de la population française qui est vaccinée, mais pas encore assez parce que je vous rappelle qu'il faut deux doses de vaccin avec ce variant. Mais si on arrive à vacciner un certain nombre de personnes, je peux le détailler un petit peu, on pourrait limiter l'étendue d'une éventuelle vague à la rentrée.
Philippe Amouyel, est-ce qu'il faut que les médecins traitants aient accès à la liste de leurs patients non vaccinés? On sait que la CNIL doit rendre son avis demain. Est-ce que c'est pas ça aussi l'urgence?
Oui, alors l'intérêt c'est quoi? C'est finalement d'essayer de vacciner les 3 ou 4 millions de Français qui ont plus de 65 ans, qui sont fragiles, qui ne sont pas encore vaccinés. Alors pourquoi est-ce qu'ils ne se vaccinent pas? Parce qu'ils ont des doutes, parce qu'ils n'arrivent pas à accéder à Internet, parce que c'est un peu compliqué, ils sont éloignés. Donc finalement, les identifier comme cela, grâce aux à une personne de confiance, hein, qui est le médecin traitant, qui puisse avoir cette liste et aller directement vacciner et convaincre cette personne. C'est quand même plus facile de convaincre quelqu'un qui a des doutes, si c'est une personne de confiance comme son propre médecin, que d'arriver dans un centre de vaccination, même bien organisé, mais relativement anonyme. Donc cet élément est extrêmement important et je souhaite de tout cœur que la CNIL aille dans ce sens-là.
Mais Philippe Amouyal, quels arguments on peut évoquer justement pour lever les doutes sur la vaccination? Parce qu'il y avait l'argument sur bah oui, ces nouveaux vaccins ARN messager, on connaît pas. Mais on peut très bien dire aux gens, bah attendez, choisissez les vaccins traditionnels, les vaccins classiques à ce moment-là.
Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a plusieurs raisons pour lesquelles il y a deux types de gens qui ne veulent, de personnes qui ne veulent pas se faire vacciner. Ceux qui hésitent et ceux qui sont profondément anti-vaccination. Donc, je crois qu'il faut qu'on se concentre sur ceux qui hésitent. Et ceux qui hésitent, ils ont chacun une bonne ou une mauvaise raison de ne pas se faire vacciner. Un exemple dans la famille, quelqu'un dont on a entendu qu'il avait eu des événements secondaires. Ou alors le fait de « Ah, on a été trop vite. Ah, on n'a pas assez de recul. » À chaque fois, il y a des arguments possibles qui peuvent être apportés. Si c'est un journaliste ou un politique qui apporte cet argument, il sera bien moins cru que si c'est le médecin généraliste qui a l'habitude déjà de prescrire des médicaments.
Mais il faut continuer à discuter. Et alors, qu'est-ce qu'on fait des irréductibles, de ceux qui sont totalement anti-vaccins? On continue à discuter ou on arrête?
Alors, de toute façon, c'est dans toutes les civilisations, il y a des anti-vaccins. La question est de savoir à un moment quel est le niveau de ces anti-vaccins. On ne le sait pas bien actuellement. Vous savez que si vraiment on voulait s'en sortir, il faudrait vacciner plus de 80% de la population. Donc, s'ils sont 20%, ça va être un vrai problème. Pourquoi? Parce que finalement, on va devoir mettre en place des mesures restrictives, des actions, des masques, des limitations pour 100% de la population parce que 20%, 10% ne se sont pas vaccinés. Ma grande crainte, c'est qu'à ce moment-là, on inverse la tendance et qu'il y ait un clivage inverse. Avant, on avait le clivage des anti-vax, si vous voulez pas dire, qu'on ait un clivage qui soit tous ceux qui sont vaccinés se disent « j'ai pas de raison de continuer à avoir des mesures de restriction parce qu'une faible partie de la population s'est vaccinée ». Excusez-moi. La population ne s'est pas vaccinée. Pardon, j'ai oublié d'un de monter.
Pas de problème.
Juste une question. Vous disiez, on ne sait pas combien sont les anti-vaccins. Je suis allé regarder hier soir. Les vaccinés contre la rougeole sont 96%. Donc ça veut donc dire qu'il y a entre 4 et 5% d'antivax résolus que vous n'arriverez jamais à convaincre. Mais ça veut dire qu'on peut en convaincre 95%.
Alors, le problème de la rougeole, c'est que c'est une vaccination obligatoire.
Bah oui, oui.
Et que les 4 ou 5%, c'est pas forcément des antivax, c'est des gens qui peuvent avoir des contre-indications, des gens qui sont pas accessibles, ou alors vraiment qui se cachent. Donc, c'est relativement faible à ce moment-là. Et si on avait 95 ou 96% de la population vaccinée contre le SARS-CoV-2, là, on aurait déjà une bonne immunité collective. Donc, la question ne se poserait pas de la même manière. Mais c'est quand on va être à la limite. Parce que l'épisode variant Delta, si on continue avec 30 ou 40% de gens non vaccinés à deux doses, on va avoir d'autres variants qui vont continuer à apparaître dans la suite. On n'en sera pas complètement débarrassé.
Merci beaucoup Philippe Amouyal d'avoir été avec nous, professeur en santé publique au CHU de Lille. On va retourner au 32-16.
RMC, Neumann Le Chypre.
32-16.
Et on est avec Sylvain qui nous appelle de Castelnau de Médoc en Gironde. Bonjour Sylvain.
Oui, bonjour.
Toi tu es commercial et tu voulais parler des gestes barrières qu'il ne faut pas oublier même si on est vacciné.
Non, alors c'est pas tout à fait ça. Moi, je suis une position entre Emmanuel
Mineman Mine Chypre
et Laurent. Alors plus vers Laurent pour une fois. aujourd'hui, on le sait, il y a suffisamment d'études qui nous montrent que par exemple, le confinement ne sert pas à grand chose, notamment des études américaines qui ont montré, comme là-bas c'est chaque gouverneur qui décide de sa politique sanitaire, que entre un État qui a été confiné avec des mesures très strictes et l'État d'à côté où c'était plutôt light, il n'y a eu aucune incidence significative par rapport au nombre de contaminations et également sur la mortalité. Donc, aujourd'hui, faire des mesures très restrictives, aujourd'hui, on sait que ça ne sert pas à grand-chose. Et par contre, vous m'entendez toujours?
Oui, on t'écoute religieusement.
Religieusement, oui.
Impeccable. Et par contre, là où j'aurais une interrogation, on va dire, où, ce qui me dérange un peu, c'est la communication par rapport au vaccin. J'aimerais qu'on soit vraiment très précis, et je pense que c'est ce qui émet des doutes sur ceux qui ne sont pas encore vaccinés, hors, je parle hors les anti-vaccins.
Oui.
C'est vraiment à quoi sert le vaccin. Moi, personnellement, je ne suis pas vacciné encore. Moi, je ne suis pas du tout anti-vaccin. C'est que on n'arrête pas de nous rabâcher. Vous êtes vacciné, ça y est, il n'y a plus de contamination, vous êtes protégé, etc. On le voit bien que aujourd'hui, les pays qui sont très en avance dans la vaccination, l'Angleterre, les Seychelles, Israël, par exemple, et bien là, les contaminations repartent à la hausse. Un autre exemple plus près de chez nous, dans les Landes, l'EHPAD où on a eu tous les pensionnaires qui ont été contaminés, on sait qu'ils avaient tous été vaccinés.
Et beaucoup, oui, mais tu vois, ils n'ont pas fait de forme grave, ils n'ont pas eu besoin d'aller en réanimation. Et je rappelle qu'un médecin et plusieurs infirmières n'étaient pas vaccinés dans l'EHPAD.
Oui, mais je suis entièrement d'accord. Si la communication sur les vaccins, au lieu qu'on arrête, quoi, on est toujours en train de nous dire, comme les pubs du gouvernement, par exemple, ça y est, vous êtes vaccinés. Hop, c'est nickel, vous risquez plus rien, vous êtes plus contaminé et vous pouvez plus transmettre le virus.
Tu veux dire, il n'y a pas de carotte, quoi. Ouais.
On le sait, non, on sait que c'est faux. Puisque là, on voit bien dans l'EHPAD, ils étaient vaccinés et pourtant ils ont tous attrapé.
Non, Sylvain, pardon, je t'interromps. Le fait d'être vacciné réduit considérablement la transmissibilité du virus. Ça ne veut pas dire qu'elle la supprime totalement, elle la réduit. Et quand on la transmet dans une forme, j'allais dire, dégradée, donc moins grave pour le patient. Mais surtout, le fait d'être vacciné pour soi-même, cette fois-ci, te protège à quasiment 100% des formes graves. Or, le problème de toutes les restrictions qu'on a posées, c'est parce que notre système de santé était à deux doigts d'exploser. Si un maximum de gens sont vaccinés et donc n'ont plus aucune chance de faire des formes graves, ça veut dire qu'on libère complètement notre système hospitalier, notre système de santé. C'est quand même ça qu'on cherche. Et on va pas vers des dizaines de milliers de morts. On en est quand même déjà à 110 000 morts. C'est quand même ça le sujet.
Ah, je suis entièrement d'accord, mais c'est non, pour ça que la communication devrait être axée sur ça permet de réduire les formes graves et non pas
on va retrouver une vie normale. Ouais, c'est une fausse, c'est presque une pub un peu mensongère.
Ouais, c'est ça, parce que Sylvain.
Ouais, non, mais je comprends ce que
Sylvain,
tu dis.
Ce que tu dis, c'est qu'en fait, les gens entendent une promesse.
Qui est fausse, en fait.
Et la réalité fait que on a l'impression que la promesse n'est pas tenue.
Il vaudrait mieux dire, vous ne ferez pas de forme grave.
Mais
en
oui,
fait.
C'est ça. Et que du coup, on se dit, mais est-ce qu'on nous raconte pas des bobards?
Merci beaucoup, Sylvain, d'être venu débattre avec nous dans Noman Le Chip sur RMC. On va continuer ensemble dans un instant à se demander si on ne déconfine pas trop vite au vu de la manière dont le variant Delta progresse dans le pays. On vous attend au 32-16. À tout de suite sur RMC.
RMC, midi 14h.
Noman Le Chip.
Midi 14h.
Noman Le Chip.
Noman Le Chip, le retour. On est ensemble jusqu'à 14h. Fin des jauges dans les restaurants. Retour des festivals en extérieur. Plus de restrictions pour les mariages. Et oui, nous sommes le 30 juin. C'est le nouveau monde. La dernière période du déconfinement. Sauf pour les Landes, qui gardent ces restrictions jusqu'au début juillet. Est-ce qu'on ne déconfine pas trop vite? C'est notre question pour Noman Le Chip. Oui, la quatrième vague est devant nous pour Laurent Neumann. Non, les restrictions ne servent plus à rien. Le seul sujet, c'est la vaccination. Et le professeur Jean-François Delfrécy, qui était ce matin sur France Inter, président du Conseil scientifique, et plutôt minoman, mille chiffres. On l'écoute.
On ne doit pas flipper, mais on doit être réaliste et conscient. On va avoir un été où chacun d'entre nous, moi le premier, on va relâcher. On a envie de vivre. Je le comprends parfaitement et de la part de tout le monde. On a la notion qu'il y a la vaccination. Et puis, on se doit se souvenir de ce qui s'est passé l'an dernier, durant l'été de l'an dernier. On était à des chiffres à peu près comparables fin juin 2020.
Et
on a vu
la
deuxième vague arriver à partir du mois de septembre. Et là-dessus arrive ce variant Delta, qui provient d'Inde, on l'appelle aussi variant indien, et qui a un niveau de transmission qui est nettement plus élevé.
Jean-François Delfrécy, le président du Conseil scientifique, et on va aller au 32-16.
RMC, Noman Le Chypre.
32-16.
Et on est avec Laurent qui nous appelle depuis la Seine-et-Marne. Bonjour Laurent.
Bonjour.
Toi, tu as reçu ta deuxième dose ce matin.
Oui.
Pour toi, le gouvernement aurait dû imposer un seuil de vaccinés.
Oui,
pour lever les restrictions.
Tout à fait. Je pense qu'on considère trop les Français comme des beubeux. On est capable de prendre nos responsabilités à un moment donné. Donc, le gouvernement peut très bien proposer 80% de vaccinés, sinon on ne lève pas les restrictions parce que de toute façon, on a une chance énorme de repartir dans une quatrième vague. Les variants sont de plus en plus agressifs, surtout le Delta. Si on est moins de 80% ou 90% de vaccinés, je ne sais pas.
Au moins, ça aurait poussé les gens à se bouger.
C'est une bonne incitation, ouais.
Un autre seuil. Laurent, qu'est-ce que tu penses de cette proposition ?
C'est une bonne idée. Je ne sais pas si elle aurait été acceptée par les Français. Et puis, il faut faire attention de ne pas monter les gens les uns contre les autres. Quand tout à coup, tu es vacciné et que tu vois que les restrictions sont encore maintenues parce que d'autres à côté de toi, ton voisin, ton collègue de travail n'est pas vacciné, ça peut très vite tourner au chahut, quoi. Voilà.
Soit ça tourne au chahut, effectivement c'est une possibilité, mais je pense que les Français sont quand même largement assez intelligents pour, si mon voisin n'est pas vacciné, aller discuter avec lui puis essayer de le convaincre.
Tu vois Laurent, je suis assez d'accord avec toi, mais je pense que c'est pas au voisin d'aller faire ça, c'est au médecin traitant. C'est exactement pour ça que je défends l'idée.
Pourquoi se priver
de la forme de pression sociale exercée
par un médecin traitant.
D'abord Laurent et Emmanuel, je pense que vous allez être d'accord avec moi, vous rendez compte de la pression sociale qu'il y a sur le vaccin. Souvenez-vous, au mois de décembre, avant que la campagne de vaccination commence, 60% des Français étaient réticents à aller se faire vacciner. Aujourd'hui, on est déjà à plus de 50% de la population vaccinée. Donc, ça veut dire que la pression sociale, elle a joué. La pédagogie, ça marche. La force de conviction, ça fonctionne. Ah oui, maintenant, il faut aller chercher des gens par les bretelles, parce qu'ils sont plus éloignés que toi, moi ou Laurent, du vaccin. Et là, c'est le rôle, à mon avis, des médecins traitants, et non pas le rôle du voisin ou du collègue de boulot. Tu peux, dans une conversation, Laurent, dire à ton voisin, écoute, t'es gentil, Jean-Marc, mais ce serait bien que t'ailles te faire vacciner, parce que moi, j'en ai marre de porter le masque et de voir mes magasins fermés. Tu peux le faire.
Alors, effectivement, mais tu peux aussi prendre en considération qu'il y a quand même une partie de la population qui va peut-être se dire, ah ouais, mais moi, si je veux retrouver une vie normale, il faut que j'aille me faire vacciner. Sinon, je n'aurai pas de vie normale.
C'est vrai.
C'est l'incitation.
Bon, là, maintenant, ça y est, il n'y a plus de restrictions sanitaires, à part le masque, la distanciation dans les de la foule. Mais s'il y a une quatrième vague qui arrive, on va faire quoi ? On va refermer les restaurants, on va fermer les discothèques. On va repartir au télétravail, on va foutre la France dans la merde.
Oui, on peut même imaginer, Laurent, tu vois, je vais aller dans son sens, on peut même imaginer des gens qui se disent, ça y est, c'est fini, les restrictions sont levées, c'est plus la peine que j'aille me faire vacciner. Et j'en connais, j'en ai croisé. Et donc là, oui, il faut faire la pédagogie.
Je te repose la question, est-ce que tu es sûr que tout le monde a un médecin traitant ? Parce que moi, par exemple, j'en ai
regardé,
pas.
J'ai regardé, il y a 10% de la population française qui n'en a pas, c'est vrai. Et qui sont encore plus éloignés du système de santé, 10%. Mais donc,
parce que moi, je ne suis pas du tout éloigné du système de santé. Je n'ai pas de médecin traitant.
Écoute, tu fais partie des 10%, mais 90% des Français ont un médecin traitant aujourd'hui.
Merci beaucoup Laurent d'être venu débattre avec nous dans Neumann le Chypre. On est avec Jean-Baptiste qui nous appelle de Château-Thierry, c'est dans l'Aisne. Bonjour Jean-Baptiste.
Bonjour.
Tu es contrôleur technique dans l'automobile. Tu es plutôt côté Laurent Neumann.
Tout à fait. Alors hier j'étais côté Laurent, aujourd'hui je suis plutôt le Chypre.
D'accord. Donc
qu'est-ce qui s'est passé
c'est
entre hier et aujourd'hui?
Alors en fait c'est cette histoire d'obligation en fait qui me fâche un peu. Et alors je trouve qu'on laisse trop vite les restrictions, c'est clair. Ça c'est sûr. Quand on voit ce qui se passe dans les autres pays, il y aura un décalage, ça c'est sûr à 100%. Il va y avoir un décalage. On a toujours été en décalage par rapport aux autres. On va se la prendre dans la figure. Ça c'est clair. Moi ce que je vois en fait, ce qu'il aurait fallu faire en fait, c'est un état des lieux du pays en fait, au niveau des vaccinés, de ceux qui sont protégés par le vaccin et ceux qui sont protégés par leur immunité, ceux qui l'ont déjà eu en fait. Parce que moi en fait j'ai déjà eu le Covid, je parle de mon cas personnel, j'ai déjà eu le Covid en mois de mars j'ai pas eu des symptômes tout de suite, j'ai eu senti une certaine fatigue que j'ai pas mis sur le dos du Covid en fait, puis des courbatures et vers la fin j'ai commencé à avoir la fièvre, la perte de goût et là je me suis dit c'est bon je l'ai, donc je décide de me faire tester, je ressors avec un test négatif. J'en parle à mon médecin traitant, qui me précise, je te prescris une sérologie. Donc, il me prescrit une sérologie. Je fais la sérologie une semaine après, et sérologie positive, à 95%.
D'accord.
Donc, 95% anticorps, je pense que c'est comme ça que ça marche. Donc moi, je dis à mon médecin, bon, ok, bah du coup, tu as eu le Covid, donc dans 3 mois, tu vois, pour te faire vacciner, au mois de juillet, fin juillet, début juillet. Donc, je retourne voir mon médecin pour un renouvellement d'ordonnance et je lui dis en même temps, tiens, est-ce que tu peux me recevoir une sérologie? Parce qu'en même temps, je voulais, moi, faire un bilan sanguin et tout ça. Il me dit pas de souci, je t'en prescris une. Je refais une sérologie, donc là, et je pensais être descendu, pour voir ce qui aurait été logique, et non, je suis encore monté.
Mais est-ce que du coup tu dois aller te faire vacciner ou pas? Il dit quoi le médecin?
Eh ben le médecin, il m'a dit clairement, pour l'instant c'est pas la peine, je suis à 192%.
Ah oui.
192, voilà, 192%. Alors j'ai mon ex-copine qui l'a eu aussi comme moi, et elle, par contre, eh ben elle est à 25.
Donc elle doit.
Elle a eu sa dose. Elle a eu sa dose. Voilà. Elle a eu sa dose parce que forcément, ce métier n'a pas duré.
On est très différents, quoi.
Voilà, c'est très épars. Donc, ce qu'il aurait fallu faire. Donc, c'est simple. C'est un état des lieux. Voilà. Prescrire des sérologies massives pour se rendre compte de la protection des gens. Ceux qui sont protégés naturellement, ceux qui ne sont pas protégés et qui doivent se faire vacciner, avant de lâcher la brique comme ça sans savoir.
Ouais, enfin, Jean-Baptiste.
Là, on y va à l'aveugle. On y va à l'aveugle.
Jean-Baptiste, l'assurance maladie connaît précisément qui est vacciné. Elle connaît précisément ceux qui ont déclenché la maladie avec des symptômes et qui, pour certains, j'espère la plupart, se sont isolés, etc. Mais elle ne connaît pas tous ceux qui ont eu la maladie, qui n'ont pas eu de symptômes.
Et qui ne le savent pas eux-mêmes.
Et donc, qui ne le savent pas eux-mêmes. Et ça, c'est extrêmement difficile de le savoir.
Oui, mais qu'est-ce qu'on risque à être vacciné alors qu'on l'a eu?
On ne risque rien.
Rien.
Donc finalement, si Jean-Baptiste il avait une dose,
c'est pas très grave.
Il serait passé à 350% de potentiel. Merci beaucoup.
Et là, tu deviens tout vert et plus en restant.
Arrête. Tiens, troisième braquet.
Non, c'est une blague. C'est une
retire
blague,
ce que tu viens de dire, s'il te plaît.
Merci beaucoup, Jean-Baptiste, d'être venu débattre avec nous. On est avec Tony qui nous appelle depuis Biganos en Gironde. Bonjour, Tony.
Bonjour tout le monde.
Salut, Tony.
Salut, Tony.
Tony, tu n'es ni le Man ni le Chypre.
Ah oui, et puis alors je vais mettre le chahut, hein. Bon.
Vas-y,
alors,
chahut.
Non, moi, je pense que les restrictions, c'est un peu comme la vaccination obligatoire. Je pense que c'est un peu une escroquerie. Alors, excusez-moi, hein, je sais que je vais choquer. Mais les restrictions, elles sont mises par des gens qui, en fait, n'y connaissent rien au virus, pas plus que les scientifiques. Donc, concrètement, moi, ça m'énerve de me dire, attention, on va refermer, on fait que ça depuis 2 ans. Ça, on ferme, on ouvre, et au final, on se retrouve au même point qu'il y a 2 ans. Donc, au final, moi, je pense qu'il faudrait laisser circuler le virus. Mais en revanche, il me semble que si on en est là, c'est parce que les services hospitaliers étaient engorgés. Oui. Donc si on part du principe que pour les désengorger, il faut vacciner les personnes âgées, les personnes avec des comorbidités, et puis allez hop, tous ceux qui ont la frousse, parce qu'il y en a qui ont peur, faut le reconnaître, eh bien dans ces cas-là, il n'y a plus de problème à l'hôpital.
Ouais.
Donc toi, tu
avoir la frousse du virus, c'est pas forcément négatif, hein.
Non, c'est pas négatif. Je comprends. Moi,
j'ai plus peur du virus que du vaccin.
Voilà. Mais oui, mais moi, c'est pas une question de peur, c'est une question de me dire quel est mon bénéfice. De mon âge. Bon, Tony, mon gamin, il a 12 ans, j'ai pas envie de le faire vacciner, il risque quoi?
Non, mais Tony, tu en tires quelle conclusion? Qu'il faut aller vers la vaccination obligatoire?
Non, pas du tout. Mais non. Moi, je pense qu'il faut vacciner tous ceux qui ont des soucis et qui peuvent en mourir.
Donc, obligatoirement? Non, mais je repose ma question. Obligatoirement?
Non, pas forcément, parce que celui qui prend son risque, celui qui dit « moi je risque de mourir », c'est lui qui risque de mourir, mais il a aucune chance de le redonner à quelqu'un qui est vacciné. Donc si lui, je vais vous donner un exemple, ma grand-mère a 90 ans, elle ne s'est jamais fait vacciner pour la grippe parce qu'elle se dit « moi j'ai jamais eu de problème, j'ai chopé la grippe, j'ai jamais eu de soucis, pourquoi j'irai me faire vacciner ?» Elle est très sceptique, mais pour le Covid, elle a le même tempérament. Alors moi je dis « bon, je vais faire attention avec toi mamie, je vais prendre mon masque, je vais me laver les mains, parce que j'ai pas envie que j'ai ta mort sur la conscience. » Concrètement, elle est consciente du fait que si elle le chope, il y a de fortes chances qu'elle y passe.
Mais elle a pris son risque. C'est ça que tu veux nous dire,
ouais, mais
Tony.
Je crois que si tu prends,
le problème, c'est le risque collectif par rapport au risque individuel. Collectif,
et je crois que Laurent avait cité une fois le nombre de Français qui étaient atteints de comorbidité. Et que
tu
arrives
entre 13 et 15 millions.
Ben voilà, et donc tu arrives de fait à un chiffre extrêmement extrêmement élevé.
Merci beaucoup Tony d'être venu discuter avec nous dans Demain le Chip. Quel est le résultat définitif, Lisa Marie?
Ça n'a pas trop bougé. Vous êtes finalement 65% à avoir répondu non. On ne déconfine pas trop vite. Vous êtes donc de l'avis de Laurent Neumann.
Pas d'envie particulière de retour en arrière.
Tu ne diras plus que c'est 50-50.
Je ne dirai plus rien. Je m'excuserai d'ailleurs même. On va jouer au C'est quoi ça?
RMC Neumann le Chip.
Le C'est quoi ça?
Bonjour, aujourd'hui c'est quoi ça avec Jamel et Vincent. Bonjour à tous les deux.
Bonjour, bonjour l'équipe.
Salut, messieurs.
Salut à vous deux. Jamel, tu es dans l'Essonne, tu es jardinier paysagiste. Est-ce que tu veux jouer avec Laurent ou avec Emmanuel?
Avec Laurent.
Salut. Alors, Jamel.
Laurent, Jamel, salut, Vincent, tu es à Chevigny en Vallière, c'est dans les Côtes d'Or, tu es routier et tu joues donc avec Emmanuel. On joue pour gagner une semaine de vacances dans les appartements.
Mona Lisa.
Non, Noémie, ça s'appelle. Noémie. Les appartements Noémie pour 4 personnes pour une semaine. C'est parti, première question entre Jamel et Vincent. On buzz avec son prénom avant de donner sa réponse. Que signifie l'acronyme PMA?
Jamel. Procréation médicalement assistée.
Oui, bravo. Premier point pour Jamel.
Je
bravo,
crois que Jamel a profité de la réponse de Vincent. Mais j'en suis pas sûr.
Il faut dire son prénom. Je suis désolée, c'est toujours la même règle. Question entre Laurent et Emmanuel.
Trop fort, Jamel.
Quel est le pourcentage de Français qui ont désormais reçu une dose de vaccin?
Laurent.
Jamel.
Non, Laurent.
Laurent, 50, plus de 50%.
Absolument. Question entre Jamel et Vincent. Laurent. Quel événement du nord de la France a été annulé?
Vincent. La braderie de Lille.
Absolument.
Bien joué, Vincent.
Dis donc, c'est pas la grande braderie?
C'est la braderie de Lille.
Non, c'est la braderie de Lille.
Non, c'est la braderie.
Question entre Laurent et Emmanuel. Comment s'appelle la première femme nommée hier présidente du Comité olympique français?
Vincent. Laurent.
Vas-y.
Hélène Bruckeres.
Attends, c'est pas à toi de jouer. Vincent, Jamel, attendez.
Vincent.
Emmanuel, il n'en sait rien. Alors, Vincent, Emmanuel, vas-y. Brigitte Henrik, effectivement.
Bravo, Vincent.
Je te donne le point, Vincent.
Ah bon?
C'est gentil. Ah bah oui.
Elle change les règles en cours de route. Okay.
Je te donne le point. On est à deux partout. Question entre.
C'est la question.
Jamel et.
Pour les départager.
Vincent, c'est la question pour se départager, absolument. Oui, quelle équipe s'est imposée 2-0 face à l'Allemagne dans l'Euro?
Vincent.
Je crois que c'est Jamel.
Ah non, c'est Vincent.
L'Angleterre. Non, je suis. Tout le monde a entendu Jamel. C'est donc Jamel, Angleterre en quart Vincent, de finale. Qui va aller
Jamel,
en quart de finale.
Est-ce que tu es capable de dire qui a mis le premier but pour l'Angleterre?
Non, mais ça change rien, Laurent.
Raheem Sterling.
Bravo. Là, il mérite son point. Là.
C'est toi, Jamel, qui gagne ta semaine de vacances dans les résidences Noémie. Tu vas pouvoir partir avec des amis.
Vincent, désolé, Vincent.
Bravo, Jamel.
Bon.
Merci, super. Franchement, c'est une bonne nouvelle.
Je voulais avec Laurent, bah tant pis. Hein. Ah bah. Je me suis planté, quoi. Hein.
Ouais, désolé.
Bah, tu rejoueras et tu prendras Laurent. Merci à tous les deux. On rejouera demain. Restez avec nous sur RMC. Salut. Dans un instant, on va parler de l'âge de la retraite à 64 ans. L'âge et l'idée est relancée comme ça, comme un os que nous allons pouvoir ronger. Faut-il travailler plus et plus longtemps? C'est notre question pour Emmanuel. Oui, plus on vit vieux, plus il faut travailler longtemps. Pour Laurent Neumann, non, le problème, c'est pas de travailler plus, c'est que tout le monde travaille. On vous attend au 32-16. À tout de suite.
RMC, midi 14h.
Neumann le chiffre. RMC, midi 14h. Neumann le chiffre.
Laurent Neumann, Emmanuel le chiffre et Laure Closier.
Salut les amis, très heureux d'être avec vous. C'est Laurent Neumann.
Bon appétit tout le monde, c'est Emmanuel Le Chypre.
Bonjour à tous, c'est Laure Closier, on est ensemble jusqu'à 14h sur RMC Story. L'idée de repousser l'âge de la retraite à 64 ans est relancée. Est-ce qu'il faut travailler plus et plus longtemps? C'est notre question jusqu'à 14h. À 13h50, c'est bon à savoir de l'info et de la bonne humeur avec Lisa Marie Marquez. On parle de quoi aujourd'hui, Lisa Marie?
Vous connaissez sûrement le mouvement MeToo, mais est-ce que vous avez entendu parler de Touche pas à ma virilité, un phénomène en Corée du Sud lancé par des hommes? Je vous expliquerai tout ça à 13h50.
On va passer un excellent moment. Mais avant, on va parler des retraites. Vous vous souvenez, c'était un sujet avant la crise sanitaire dont vous avez oublié, vous vous souvenez
non,
pas
non,
c'était
pas
le sujet de Discord. Bon, c'est un petit peu loin, question gestion de priorité. Mais les macronistes espèrent faire passer une réforme d'ici la présidentielle. Du coup, certains ont lancé comme un os à ronger la retraite à 64 ans très rapidement. Est-ce qu'on y va? Ce matin sur CNews, Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie et des Finances, a rappelé son soutien à cette réforme.
Je suis favorable, et je suis favorable pour une raison très simple. Parce que c'est l'intérêt des Français et l'intérêt de la France. Que tout le monde, globalement, que notre pays travaille davantage.
La retraite à 64 ans, ça coince du côté des syndicats qui estiment que c'est une mesure brutale et injuste. On écoute Laurent Berger, le patron de la CFDT, il était ce matin sur France Inter.
C'est pas une réforme de retraite ce qui est proposé. C'est une mesure budgétaire brutale et injuste. C'est ça, je veux dire, le relèvement de l'âge légal de départ, c'est pas une réforme des retraites, c'est une mesure budgétaire. Et c'est d'ailleurs comme ça que c'est présenté. Qui peut imaginer que ça passe crème? Ça passera pas comme ça.
Alors, est-ce qu'il faut travailler plus et plus longtemps? C'est notre question, Emmanuel, évidemment, c'est oui.
Bah, oui, parce que c'est intéressant de voir quand même que l'argument principal que donne Bruno Le Maire pour justifier cette réforme, c'est il faut travailler plus. L'argument... financier, ce que dit Laurent Berger sur l'équilibre des retraites, c'est pas tout à fait juste. C'est-à-dire que si Emmanuel Macron, enfin, puisque c'est à lui qu'on prête cette intention de faire cette réforme, si on avait voulu prendre des mesures financières, il y avait des tas d'autres façons de procéder qui étaient moins douloureuses politiquement, notamment. Hein. Il y avait la possibilité, par exemple, de mettre en place, plutôt que prévu, d'accélérer finalement l'allongement de la durée de cotisation, ce qui était la réforme Tourelle. Même les syndicats étaient pour. Et ça rapporte quand même 5 à 7 milliards par an. Donc ça va très très vite. Non, moi je pense qu'il y a effectivement le message qu'il faut travailler plus. Et oui, il faut effectivement travailler plus. D'abord parce que quand on regarde 64 ans, c'est déjà quasiment l'âge réel, effectif, auquel les Français en moyenne partent en retraite. On est à 63,4 ans. On a l'espérance de vie après la retraite qui n'a jamais été aussi longue. Et puis surtout, encore une fois, la France est le pays qui travaille le moins. Toujours, si on prend cet indicateur qui est pour moi le plus pertinent, qui est de rapporter le nombre d'heures travaillées à la population entière. Parce que c'est ça qui fait la richesse d'un pays, finalement. Et on est de loin le pays qui travaille le moins, 630 heures par an et par habitant. Et un des problèmes, et là je vais rejoindre Laurent, même si je veux pas dévoiler ce qu'il veut dire, mais c'est que effectivement, l'idée, c'est que les gens qui travaillent, c'est pas qu'ils travaillent pas assez, c'est notamment qu'ils travaillent pas assez sur l'ensemble de la vie. Et la France est un des pays qui a les taux d'activité des seniors les plus faibles. Or, on sait que quand on repousse l'âge de la retraite, on a un effet quasi mécanique au bout de quelques années, qui est que ça augmente le niveau d'activité des seniors. Donc, par rapport à cette notion fondamentale qui est que oui, il faut qu'en France, globalement, on travaille plus, bah, c'est vrai que c'est une bonne proposition.
Laurent.
D'abord, il faut qu'on se mette d'accord sur un terme, un mot, et là je rejoins Laurent Berger, ce que propose le gouvernement, le recul de l'âge de départ à la retraite à 64 ans, n'est pas une réforme. Ça n'est pas une réforme. On joue sur un des paramètres financiers et budgétaires, mais pardon, c'est pas une réforme. La réforme de la retraite par points que proposait le gouvernement avant la pandémie, ça, c'était une réforme. On pouvait être pour ou contre, mais ça, pour le coup, c'est une vraie réforme de fond. Mais
c'est là, pour ça que je dis que c'est un os.
Mais là, en l'occurrence, c'est pas une réforme. Donc, comme c'est pas une réforme, bah, c'est un objet politique. On fait de la politique. Là où je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi, Emmanuel, c'est que tu as dit quelque chose de très important. Les Français qui travaillent, travaillent beaucoup. Et parfois même plus que nos voisins. En revanche...
Oui, mais là, tu parles de durée hebdomadaire ou durée mensuelle.
Non. En revanche, quand on rapporte le temps de travail au nombre de gens, bah oui, là, on est moins 10 ans que les autres. Pourquoi ? Parce qu'on a beaucoup de chômeurs. Donc, la solution, ça n'est pas de repousser de 2 ans l'âge de départ à la retraite, c'est de tout mettre en œuvre pour que ceux qui n'ont pas de travail en trouvent un. Et je parle toujours sous ton contrôle, parce que pour moi, le chip, c'est le docteur le chip, il sait tout en économie. Mais tu sais très bien que si demain, on arrive à mettre 1 million de chômeurs de plus au travail, il n'y a plus de débat sur les retraites. C'est fini. On a toutes les cotisations qu'il faut. Il n'y a plus de crainte. Les retraites sont payées. Il n'y a plus de problème. Donc, la question, c'est comment on fait pour mettre 1 million de personnes qui aujourd'hui sont à Pôle emploi, comment on fait pour les mettre au travail. Et ça, c'est le sujet le plus difficile. Mais jouer avec un nonos sur la retraite ou bouger le curseur, alors un jour on augmente les cotisations, le lendemain on baisse les pensions, le troisième jour on dit non, finalement c'est mieux de repousser de 2 ans. Ça n'a aucun sens, aucun intérêt, et Laurent Berger a raison, en plus c'est violent. Et toi Emmanuel, qui ne rêve que d'une chose, c'est qu'à la rentrée prochaine, le pays retrouve la croissance, qu'il y ait une relance forte, etc., il va se passer quoi? On va mettre ça sur la table, il va y avoir 1 million de personnes dans la rue, ça va foutre tout par terre.
Et ça sert à faire des débats, c'était peut-être ça le but. Bah oui. Hervé Boulol est avec nous, bonjour, économiste à l'OCDE, responsable retraite et vieillissement démographique à la direction de l'emploi et des affaires sociales de l'OCDE. Est-ce qu'on travaille plus que les autres en France ou moins que les autres?
Eh bien, disons que ce qui s'est passé, c'est qu'on a un rattrapage très fort depuis 20 ans sur le taux d'emploi des 55-59 ans. Et en revanche, on a un décrochage extrêmement fort après 60 ans. Et donc, la question, on pourrait se dire, quel est le rapport avec les retraites? Est-ce que du coup, comme il y a moins d'emplois après 60 ans, est-ce qu'il faut ne pas du coup augmenter l'âge de la retraite? Ou au contraire, c'est une question de poule et d'œuf, est-ce que c'est l'âge de retraite à 62 ans qui fait qu'on a des faibles taux d'emploi à 60-64 ans? Alors, par rapport au débat, on peut discuter de la sémantique. Mais dans les réformes, il y a des réformes systémiques, ce qui était proposé avec le régime universel, et des réformes paramétriques. Depuis 25 ans, on fait des réformes paramétriques. On change des paramètres. On en fait depuis 25 ans. C'est difficile de dire qu'on n'a pas eu de réforme de retraite en France.
Des petites choses par-ci, par-là, mais pas quelque chose de
profond. Oui, mais ce sont quand même des réformes. Je suis désolé. Ce qui se passe avec l'âge minimum à 62 ans, il faut être... Nous, on regarde évidemment en comparaison internationale. 62 ans pour un âge minimum, c'est pas particulièrement bas par rapport aux pays de l'OCDE. La moyenne est à 62 ans. Donc, on est dans la moyenne à 62 ans. En revanche, la différence, c'est que c'est aujourd'hui 62 ans. Quand on regarde, quand on prend en compte l'ensemble des mesures légiférées et qu'on se projette dans le futur, eh bien, la moyenne des pays de l'OCDE ne sera pas 62 ans en 2030 ou 2040. Ça augmente. Par exemple, la Suède augmente de 62 à 64. L'Allemagne augmente de 63 à 65, 63,7. Je parle de l'âge minimum. Je parle bien de l'âge minimum.
Mais l'âge moyen de départ à la retraite est de combien en France?
Donc,
63,4.
Oui, alors. Très bien. Voilà.
Oui, mais l'âge de sortie.
Donc on est déjà au-delà de 62 ans.
Mais l'âge de sortie du marché du travail est beaucoup plus faible.
Et oui, parce que, je vous interromps, mais c'est ça le sujet important. Mais, aujourd'hui, une personne sur deux qui liquide ses droits à la retraite, qui part à la retraite, est déjà hors de l'emploi. Oui, aujourd'hui.
Si je peux compléter, parce que oui, mais après, il y a des effets de bord qui se passent où il y a des gens qui transitent via l'assurance chômage. Il y a les ruptures conventionnelles qui peuvent être utilisées comme des pré-retraites, etc. Oui. Et donc, je vais revenir sur des chiffres très clairs. Depuis 25 ans, le taux d'emploi des seniors a augmenté beaucoup en France et dans les pays de l'OCDE, de 20 points, 55-59 et 60-64. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, sur les 55-59, on est à la moyenne OCDE, 72%. En revanche, pour les 60-64, la moyenne OCDE est à plus de 50, 55% pratiquement, 53. La France est à 33% des 64. Et ce qui est important, c'est que on était à 10% il y a 20 ans. D'accord? Donc on a eu une augmentation extrêmement forte, même pour les 60-64, même si on reste très très bas. On a eu une augmentation extrêmement forte. Mais si vous aviez eu ce débat, j'imagine, il y a 10 ans, quand l'âge de retraite est passé de 60 à 62 ans, on aurait dit, oh là là, pas question d'augmenter à 62 ans. Les taux d'emploi sont déjà très bas. Oui, on a augmenté et les taux d'emploi se sont accrus beaucoup. Mais on reste encore très en retrait de la moyenne des pays de l'OCDE.
Donc repousser l'âge de la retraite, c'est bien quand même mécaniquement faire que les 60-64 ans vont travailler plus.
C'est un facteur important. Après, ce qu'on a entendu de la part... Évidemment, il y a un truc violent. Et on n'est pas obligé d'avoir quelque chose de violent.
De la CFDT.
Ce qu'il faut faire, c'est de faire ça graduellement. Et si possible, en lien avec les gains d'espérance de vie. On ne devrait pas avoir ces débats tous les 10 ans. Ça devrait se faire graduellement en fonction des améliorations de la santé.
On va aller au 32-16 dans un instant, mais avant, Lisa Marie, on peut voter sur les réseaux.
Et je vous rappelle notre question, faut-il travailler plus et plus longtemps? Vous pouvez nous répondre sur Twitter, sur Facebook et sur l'application RMC.
RMC, Neumann Le Chypre.
32-16. On est avec Ghislaine qui est retraitée, qui habite à Rochemort en Ardèche. Bonjour Ghislaine.
Oui, bonjour. Alors je reviens sur ce que disait la personne avant moi. Il y a l'espérance de vie, certes, mais l'espérance de vie en bonne santé qui permet de travailler, elle n'est pas du tout la même.
Toi, moi, tu as pris ta retraite à 62 ans, Ghislaine.
Oui, normalement, j'avais prévu d'aller à 65 ans. J'étais assistante de gestion, j'adorais mon job. Mais l'entreprise a été vendue et de ce fait, je n'ai pas eu le choix. Mais quand je travaillais, même si j'aimais mon job, je faisais de grosses crises d'hypertension, à la limite de me créer un AVC. Et j'ai dû la prendre à 32 ans. J'ai toujours un traitement. Je n'ai plus jamais refait une crise d'hypertension.
Donc toi, il fallait que tu t'arrêtes, en fait.
Ah bah oui, je m'en suis rendu compte après coup que j'ai eu de la chance d'arrêter. En outre, quand on est à la retraite, on n'est pas des inutiles parce que mes enfants sont parents tard, 46 et 39 ans. Donc, ils sont bien contents d'avoir mamie. Là, justement, cette semaine, les deux petits sont malades. Donc, à un moment donné, on n'est pas inutile en retraite. Et par contre, mon fils est conseiller pour l'emploi. Et il était en Haute-Savoie et depuis qu'il est à Montélimar, depuis le début, il n'aime pas son travail à Montélimar parce qu'il me dit toujours qu'il n'a jamais vu autant de gens qui n'avaient pas envie de travailler et aussi peu diplômés, donc incasables.
Ça fait depuis quand ça, Ghislaine, qu'il est à Montélimar?
À Montélimar, ça fait 5 ans.
Ah oui. Donc c'est pas un effet parce qu'on a souvent dit avec la crise le chômage partiel, sans travailler, tout ça, ça incitait pas les gens.
C'est vrai qu'en Haute-Savoie, le bassin d'emploi est totalement différent. En plus, Les gens ont un plus haut niveau d'études. Ici, c'est très bas le niveau d'études. Ils ne sont pas motivés. Quand on n'a pas de niveau d'études, ben, on n'a pas un bon job. Il faut être objectif. Donc, les gens, ils préfèrent vivre un petit CDD, des indemnités de chômage, du RSA, et des merdes comme ça.
Ghislaine pointe du doigt quelque chose qui est très différent, qui est très important, pardon. Tout à l'heure, on a dit on est très en retard par rapport à nos voisins aux autres pays de l'OCDE sur le taux d'emploi, notamment le taux d'emploi des plus âgés. Mais justement, si on peut rattraper ce taux d'emploi, et pas simplement chez les plus de 60 ans, y compris chez les plus jeunes, de façon générale, en population générale, mais nos problèmes liés à la retraite, ils n'existent plus. Ils disparaissent du jour au lendemain. C'est justement là où on a un effort à faire. Il y a parfois un rapport du simple au double en matière de taux d'emploi entre certains pays européens, par exemple, et nous. Si on arrive à combler ce fossé-là, mais il n'y a plus de problème de retraite.
Hervé Boulol, ça suffit juste de faire monter le taux d'emploi?
Non, alors ça ne suffit pas. C'est une mesure extrêmement... Le problème, c'est que ça fait partie de la solution. On ne va pas faire monter les taux d'emploi comme ça. L'âge de la retraite est un marqueur social extrêmement important. Mais ce n'est pas une baguette, c'est pas la panacée, ce n'est pas une baguette magique. Il suffit d'augmenter les taux d'emploi. Il faut des mesures d'accompagnement. Il faut donc notamment sur la formation, sur tout ce qui se passe au niveau de l'assurance chômage, etc. Et surtout l'accompagnement des chercheurs d'emploi après 50 ou 55 ans. Donc ça, c'est important d'avoir des mesures d'accompagnement. Ce que dit Ghislaine, c'est important. C'est qu'évidemment, il y a aussi des gens qui sont en incapacité de travail. Et donc, il faut avoir des mesures déjà de prévention sur les conditions de travail. Et également, c'est pour ça qu'on a aussi des pensions d'invalidité pour ceux qui sont en incapacité
de travail. Du cas par cas.
Voilà, du cas par cas. Maintenant, contrairement à ce qu'a dit Ghislaine, alors, il y a des cas particuliers qui sont évidemment qu'il faut prendre en compte. Mais en moyenne, il se trouve qu'il y a quelque chose, il y a le rapport du Conseil d'orientation des retraites qui est sorti il n'y a pas longtemps, et c'est quelque chose d'extrêmement impressionnant. C'est-à-dire que l'âge, l'espérance de vie a augmenté, donc depuis 20 ans. Mm-hmm. L'espérance de vie en bonne santé, alors les mesures sont plus fragiles parce que c'est des enquêtes, l'espérance de vie en bonne santé après 60 ans ont augmenté encore plus vite. Donc c'est pas vrai de dire que, alors certes, toutes les années après 60 ou 65 ans ne sont pas en bonne santé.
Ah, attendez, c'est un point important parce qu'on entend généralement, et c'est l'argument de beaucoup de dirigeants syndicaux, de dire que l'espérance de vie en bonne santé n'augmente pas, voire recule.
Mais c'est faux. Regardez le rapport du corps, c'est très clair, ils ont des graphiques. Voilà. On pourra le mettre sur votre site.
Ouais, d'accord.
La France est un cas, c'est pas le cas de tous les pays de l'OCDE. En moyenne, c'est vrai que si j'ai pas les chiffres précis en tête, mais si dans un pays donné, on a par exemple 25 ans d'espérance de vie après 60 ans, grosso modo, on peut dire qu'il y en a, par exemple, 16 ans en bonne santé et 9 avec des problèmes de santé. Et lorsqu'on augmente, donc en rapport de tiers en tiers, à nouveau, les chiffres sont pas justes. Mais jusqu'à là, les gains d'espérance de vie, eh bien, on gardait la même proportion en bonne santé avec des difficultés. Pour la France, regardez les rapports du corps, depuis 20 ans, les gains en bonne santé après 60 ou 65 ans ont été plus rapides que les gains ont simplement d'espérance.
Ce qui est plutôt un argument favorable à l'allongement de l'âge de départ de la retraite. Merci beaucoup Ghislaine d'avoir été avec nous. Dans un instant, on sera avec Tom qui a 24 ans et qui est à Paris et qui est plutôt côté Laurent Neumann. On vous attend, vous, au 32-16 pour parler des retraites. Est-ce que vous êtes prêts à travailler plus et plus longtemps? On vous attend sur RMC. À tout de suite.
Midi 14h.
Neumann Le Chypre.
Neumann Le Chypre, le retour. On est ensemble jusqu'à 14h sur RMC, sur RMC Story. L'idée de repousser l'âge de la retraite à 64 ans est relancée. Est-ce qu'il faut travailler plus et plus longtemps? C'est notre question. Jusqu'à 14h, Neumann Le Chypre. Oui, on vit plus vieux. Il faut travailler plus longtemps. Laurent Neumann, non, le problème n'est pas de travailler plus, c'est que tout le monde travaille. On est toujours avec Hervé Boulol, économiste à l'OCDE. Lisa Marie, quelle est la première tendance?
Vous êtes pour le moment 65% à dire non, vous ne voulez pas, il ne faut pas travailler plus et plus longtemps.
Mais il faut qu'on soit plus nombreux à travailler.
C'est pas précisé dans le sondage, mais oui.
Mais non, mais il ne faut pas dire non. Il faut dire non et proposer une alternative. Moi, l'alternative que je propose, ce n'est pas de travailler plus ou plus longtemps quand on a un travail. C'est que ceux qui n'ont pas de travail puissent travailler. Et là, ça change tout. Les Français travaillent beaucoup. On n'est pas un peuple de feignants. Ce n'est pas vrai, c'est un mensonge. Les gens travaillent beaucoup. Quand ils ont un travail, le problème c'est qu'il y en a beaucoup qui n'en ont pas. Donc c'est ça qu'on doit travailler, c'est obtenir que les gens qui n'ont pas de travail en trouvent un.
Et on va aller au 32-16.
RMC, Neumann Le Chypre.
32-16.
On est avec Tom qui nous appelle depuis Paris, qui est étudiant en commerce et en droit. Bonjour Tom.
Bonjour.
Toi, tu es plutôt côté Laurent Neumann, mais il y a un mais.
Oui, moi, je suis côté Laurent Neumann, je suis d'accord. Moi, je prends l'exemple d'une personne avant le confinement. Quand les restaurants avaient fermé, elle avait 49 ans, elle m'avait dit le problème, c'est que si mon restaurant ferme, je ne retrouverai pas de travail derrière. Donc, elle avait cette peur-là, et autour de moi, c'est pareil, beaucoup de gens qui ont environ la cinquantaine ne trouvent pas de travail. Donc, même si on applique la théorie de Manu Le Chypre, qu'on repousse de 2 ans l'âge de départ, ok, ils vont travailler jusqu'à 52, 54 ans, mais ils vont encore être au chômage pendant 10 ans. Donc, pour moi, ça, c'est pas une mesure qui est viable.
Par contre, on a un gros problème sur l'emploi des seniors pour toi.
Exactement, mais il y a une mesure qui doit être appliquée, n'en empêche, et qui a désorganisé tous les services publics quand elle a été prise, c'est les 35 heures. Pour moi, si on passe à 40 heures, d'après mes calculs, si on passe à 40 heures, et j'ai fait un calcul sur 37 annuités de travail, la personne travaille 1 an et 3 mois de plus si on passe à 40 heures. Donc là, on augmente effectivement le travail des personnes, mais sur le long terme.
Ouais,
mais
là, Tom, là, tu fais autrement, certes, mais tu fais travailler plus les gens qui travaillent. Alors moi, je pense que le problème, c'est de faire travailler les gens qui ne travaillent pas. C'est pas de faire travailler plus ceux qui ont déjà un job. À mon avis, c'est pas ça la solution.
Mais donc,
c'est un des problèmes. Ouais. Pour moi, c'est un des problèmes, mais il y a un autre problème du travail au quotidien. Il y a 2 autres problèmes, et que là, vous n'avez pas touché, c'est la question de la fraude. Il y a eu un rapport sénatorial qui a révélé qu'il y avait 1,5 milliard de fraudes par an sur les retraites. De fausses retraites, des gens qui sont décédés, etc. C'est 1,5 milliard d'euros quand même.
Ouais,
et
c'est
après,
beaucoup.
La deuxième chose, c'est la question de la natalité que vous n'évoquez pas dans le débat. On a de plus en plus de personnes qui vont aller à la retraite, puisque les baby-boomers vont de plus en plus à la retraite. Et de l'autre côté, on a une natalité qui est faible. Donc pour moi, on peut faire aussi une politique de natalité qui va permettre de financer les futures retraites. Et on peut même mettre une solution alternative, c'est s'inspirer, mais pas de le copier, mais de s'inspirer du modèle danois, des fonds de pension français qui seront complémentaires au système qu'on a aujourd'hui.
Alors attends, t'as beaucoup de propositions de curseurs différents. Tom, la natalité, Hervé Boulol, c'est bien, mais c'est pas pour tout de suite. Si on augmente la natalité aujourd'hui, il y a un petit décalage le temps que ça finance les retraites.
Oui, c'est ça. Il y a un décalage de 25. C'est quelque chose d'important, bien entendu. Et la France est plutôt bien située par rapport aux pays de l'OCDE. On sait, d'après les dernières données de l'INSEE, qu'on évolue plutôt sur un scénario bas par rapport à ce qui est attendu il y a cinq ans même. Oui, c'est quelque chose d'important, mais évidemment, ça aura un impact au mieux dans 30 ans.
Mais
maintenant, juste, excusez-moi, deux choses, parce que vous avez raison. Le sondage, 65%, évidemment, c'est extrêmement impopulaire. Personne ne veut travailler forcément plus. Il y a des gens qui souhaitent, mais globalement, on comprend très bien que c'est quelque chose d'impopulaire. Mais effectivement, la bonne question, c'est quelle est l'alternative? Si on ne fait pas ça, qu'est-ce qui va se passer? Et donc, de ce point de vue, il y a des questions. Est-ce qu'on est prêt à cotiser davantage? Est-ce qu'on est prêt à avoir un niveau de retraite plus faible? Et des questions d'équité intergénérationnelle. Si on ne le fait pas maintenant, qui va finalement payer à un moment donné? Donc là, il y a cet aspect-là qui est quelque chose de très important. Et ensuite, au-delà des questions de retraite, on a en France un problème global de taux d'emploi, mais qui est taux d'emploi à la sortie, à l'entrée du marché du travail, pour les jusqu'à 30 ans, grosso modo, et après 60 ans. Entre 30 et 60, on a des bonnes performances d'emploi en France. Donc le problème, il est concentré là-dessus. Et c'est un problème d'emploi globalement. Et ensuite, par rapport à la question du vieillissement démographique, qui est là, c'est important, de pouvoir faire en sorte que les gens travaillent plus longtemps, contrairement à ce qui se passe maintenant, où l'âge de sortie du marché du travail est en France 3 à 4 ans plus faible que la moyenne des pays de l'OCDE.
Et c'est combien? C'est 58?
Non, l'âge de sortie du marché du travail est plutôt à 61, quoi, disons, de cette
Alors,
heure-là.
Alors, Hervé, justement, moyen. La perspective sur... parce que derrière tout ça, il y a quand même l'idée sous-jacente que notre système de retraite court à la faillite, qu'il faut prendre des mesures absolument urgentes, etc.
Mais c'est pas vrai.
Alors, quand on regarde le rapport du COR, effectivement, sur les 12 scénarios explorés... Il y en a 9 qui sont pas très pessimistes. Et puis, on se dit, le fameux choc des baby-boomers. Bah oui, mais les baby-boomers, là, c'est dans les 5-6 ans qui viennent, qui vont commencer à finalement, si on regarde l'espérance de vie, bah, qui vont commencer à disparaître petit à petit. Et que donc, cette génération massive dont on a financé la retraite là, après, elle sera moins nombreuse. Et c'est quoi l'urgence financière réellement?
L'urgence financière, là, il faut vraiment se pencher sur les chiffres et les alternatives. Mais sur le baby boom, vous avez raison, l'impact, le gros de l'impact va être entre 2025 et 2035, grosso modo. Voilà. Mais ensuite, voilà. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point important, souvent quand on a les projections du corps, on dit, ah oui, ben, on est en déficit. Et ce qui est une mesure compliquée, le déficit du système de retraite. Les dépenses, on comprend bien, le déficit, c'est plus compliqué. Bon, c'est technique. Mais on a un déficit et on reviendra à l'équilibre en 2035 et 2040. Donc, finalement, ça va aller. Mais c'est quelque chose d'important qui a du mal à passer, je trouve. Il faut être le plus pédagogique possible là-dessus. Ce qui compte, c'est pas une approche en termes de déficit, c'est une approche en termes de stock. C'est-à-dire que les déficits, si on revient à l'équilibre en 2040, eh bien tous ces déficits-là de 2025 à 2040, on les aura accumulés en dette. Ouais. Donc ça disparaît pas en réalité. C'est pas parce qu'on revient à l'équilibre qu'on a résolu le problème. Il faut vraiment s'assurer qu'on a un équilibre financier en termes de stock, donc en termes de dette. Et là-dessus, effectivement, alors il y a pas forcément d'urgence, mais si on veut jouer sur l'équilibre en 2030, il faut prendre les mesures maintenant.
Il y a un autre élément, il y a un autre élément à mon avis qu'il faut prendre en compte, et celui-là, il est très politique. Si jamais à la rentrée, ce qui est aujourd'hui un ballon d'essai devient un vrai projet avec vocation à l'introduire dans le projet de loi de finances à la fin de l'année pour l'année 2022. Et qu'on se retrouve à la rentrée de septembre avec des manifestations à répétition, toutes les projections sont les mêmes, ces manifestations, ces grèves potentielles, etc., risquent de nous coûter entre 1 point et 1 point et demi de croissance. Pardon, 1 point et 1 point et demi de croissance.
Toi, tu dis que c'est pas le moment de lancer ce débat.
C'est combien de dizaines de milliers de chômeurs en plus? C'est comme ça, à mon avis, qu'il faut raisonner. Une réforme, elle est bonne ou elle est mauvaise. Je continue à penser que toucher les paramètres financiers, c'est pas des réformes. C'est, on joue sur les tableurs, etc.
Mais tu dis, c'est pas le bon moment.
Au-delà de ça, il faut se poser la question de l'acceptabilité. Qu'on mette cette question-là au menu de la campagne présidentielle.
Mais on dit toujours, le courage politique, c'est aussi d'aller au-delà de l'acceptabilité, c'est de pousser des réformes. Mais là, tu dis,
bien
bah
sûr,
non, en
et
fait.
Vous serez les premiers, toi, Laure, et toi, Emmanuel, à dire, bah mince, alors, il y a encore une grève de la SNCF et on peut pas prendre l'avion. Bah voilà.
Mais
bah oui,
dans ces cas-là, on ne fait jamais rien.
Mais non, c'est un sujet de la campagne présidentielle. On met la question des retraites sur la table.
C'était pas déjà le sujet de la dernière campagne présidentielle?
Non, on a très peu parlé, figure-toi. Justement, c'est tout le problème. On a reproché à Emmanuel Macron, justement, de ne pas avoir été clair, de ne pas avoir été précis pendant sa campagne, et du coup, de nous avoir sorti une réforme de la retraite par points qui sortait de nulle part. Bah, voilà le résultat.
Merci, Tom, d'avoir été avec nous au 32-16. On est avec Max. Max qui travaille dans le bâtiment. Bonjour, Max.
Oui, bonjour.
Salut, Max.
Pour toi, Max, il faut déjà arriver jusqu'à 58, 60 ans dans le bâtiment, c'est pas simple.
Bah, moi, c'est vraiment ce que je trouve, c'est qu'aujourd'hui, on oublie un petit peu. Alors, souvent, ceux qui prennent les décisions, bah, ils ne savent pas trop ce que c'est de travailler. Mais moi, aujourd'hui, j'avais déjà 10 ans que je suis sur les toits et j'ai déjà une grosse hernie fiscale. Je vois, j'ai des collègues qui ont 55 ans, qui sont dans un état mais déplorable. Hein. On peut plus leur faire toutes les tâches. Hein. Moi, je suis en toiture, donc c'est un métier qui est vraiment assez rude. Mais aujourd'hui, quand j'entends parler d'aller plus loin, alors moi j'arriverai à aller plus loin, parce que comme je suis chef de chantier, j'ai une formation, j'ai réussi à m'en sortir, bah, je vais pouvoir passer conducteur de travaux. Mais le petit gars qui a 55 ans que je vous parle, bah, lui il est manœuvre, donc lui il pourra jamais évoluer.
C'est pour ça qu'il faut des indices de pénibilité.
Non mais c'est ça, Max, il y a des dispositifs carrière longue quand même qui sont prévus.
Mais là il parle de la pénibilité.
Oui, bah justement, les dispositifs, c'est ça, c'est pour...
Oui, mais c'est là où je te dis que dire on passe à 64 ans, c'est le contraire d'une réforme. Une vraie réforme serait de dire on va prendre en compte la pénibilité. Ce qui a d'ailleurs été le cas dans la fameuse réforme de la retraite par points. Mais comme on est en train de l'abandonner pour se reporter sur des réformes paramétriques, bah du coup, les vrais sujets de fond, tiens, sujet majeur, l'égalité entre les hommes et les femmes. Totalement inégalitaire le système aujourd'hui. Bah, si tu joues juste sur la retraite à 64 ans, voilà encore un sujet que tu n'abordes pas. La pénibilité à laquelle Max fait référence, ou l'inégalité homme-femme devant les pensions de retraite, bah voilà, tu n'en tiens pas compte, tu continues le même système qu'aujourd'hui et tu changes juste un paramètre.
Max, parce que Max, tu disais, les décisions sont prises par des gens qui savent pas ce que c'est que des métiers pénibles, etc. Je rappelle quand même que c'est en 2010 que l'âge de la retraite est passé à 62 ans. Ouais. François Hollande, en 2012, a élargi les conditions d'accès pour pouvoir profiter d'un métier pénible. Et du coup, aujourd'hui, il y a 180 000 personnes quand même chaque année qui partent En retraite, en profitant de ce dispositif de pénibilité, y compris les polytechniciens, y compris les énarques, par exemple, vous voyez. Donc,
c'est quoi un travail difficile pour un énarque?
Bah, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a été sans doute un peu trop loin. Donc, si on voulait, et ça coûte cher. Ça coûte très cher. Donc, si on avait voulu faire des économies, encore une fois, si cette mesure,
j'en écarquille les yeux.
À 64 ans, n'avait pas été une proposition.
Attends. Tu veux dire que sous François Hollande, on a décidé que le fait d'être polytechnicien ou énarque rentrait dans les métiers pénibles?
Oui, absolument. Bah, il y avait toute une liste de métiers pénibles. Oui, alors c'est lié au fait que quand t'es polytechnicien, par exemple, tu as des trimestres très jeunes. En fait, voilà.
Ah oui. Ah, c'est carrière longue, c'est pas carrière pénible.
Oui, carrière
longue. Tu as commencé à travailler tôt.
Bon, après, pour les énarques, voilà. Ça, mais c'est un exemple. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a exagéré là-dessus.
Même toi, tu rigoles rien qu'en le disant.
Bah, même lui.
Et que si on avait voulu, encore une fois, c'est ça qui est intéressant dans cette proposition aux 64 ans. C'est que si la seule ambition, elle était financière, il y avait encore une fois plein d'autres façons de faire des économies. Plutôt que cette proposition qui est politiquement provocante.
Merci beaucoup Max d'avoir été avec nous au 32-16. Dans un instant, on sera avec Christian. Christian, il est routier et il ne se voit pas du tout travailler jusqu'à 64 ans. Hervé Boulol, vous restez avec nous, économiste à l'OCDE. On vous attend au 32-16. Neumann Le Chiffre sur RMC, on revient.
RMC, midi 14h.
Neumann Le Chiffre.
Neumann Le Chiffre, on est ensemble jusqu'à 14h sur RMC, sur RMC Story. L'idée de repousser l'âge de la retraite à 64 ans est relancée. Est-ce qu'il faut travailler plus et plus longtemps? Emmanuel Le Chypre dit oui, plus on vit vieux, plus il faut travailler longtemps. Laurent Neumann dit non. Le problème, c'est pas de travailler plus, c'est que tout le monde travaille. On est toujours avec Hervé Boulol, économiste à l'OCDE. Et on va retourner au 32-16.
RMC, Neumann Le Chypre.
32-16. On est avec Christian, qui est conducteur routier, qui nous appelle depuis Poitiers. Bonjour Christian.
Bonjour.
Toi, tu es jeune Christian pour l'instant.
Oui, moi j'ai 28 ans, mais j'ai le cas de mon père, par exemple, qui a aujourd'hui 59 ans,
ouais.
Et qui est complètement usé par le travail, qui est en arrêt, qui a été reconnu en maladie professionnelle. Et donc, par exemple, j'entendais hier qu'on parlait peut-être de commencer la réforme de la retraite à partir des années 61, mon père est de 62, et mon père, déjà à l'heure actuelle, il peut plus travailler. Donc comment voulez-vous qu'on les fasse travailler plus? Et encore une fois, dans le métier de conducteur poids lourd, moi, je vois des gens de 65, 70 ans qui sont encore derrière des volants parce que les patrons veulent pas les lâcher, parce qu'ils trouvent personne. Donc le problème, je suis entièrement d'accord avec Laurent, c'est de mettre tout le monde au travail. Les jeunes veulent pas travailler. Moi, j'ai connu une période de ma vie où j'alternais intérim et chômage, et je gagnais plus d'argent à rester chez moi. Ça motive pas à aller travailler, parce qu'en fait, quand vous comptez votre essence, etc., bah, vous perdez plus d'argent à aller travailler qu'à rester chez vous. Bah, vous restez chez vous. Et les jeunes, c'est ce qu'ils ont compris. Et le problème du système, il est là.
Juste Christian, quand tu dis les patrons ne veulent pas les lâcher, c'est pas le patron qui décide à quel moment on t'autorise à prendre ta retraite.
Mais c'est que les mecs, ils trouvent pas de travail.
Oui, donc ils demandent auprès des conducteurs routiers plus âgés.
Certains veulent continuer, mais certains aussi. Moi, j'ai eu le cas quand j'étais chauffeur d'engin dans le temps public. J'ai eu le cas de certaines personnes de plus de 63 ans. Ils n'avaient pas le choix de continuer de travailler parce que ils avaient, malgré le fait qu'ils avaient travaillé, ils avaient des retraites de misère. On prend par exemple des agriculteurs, ils partent bien après 60 ans ou 62 ans à la retraite parce que sinon leur retraite elle est misérable, alors qu'ils ont passé toute leur vie et qu'ils ont fait tourner l'économie française. Donc il y a bien un réel boosting quand même de mettre les jeunes au travail. Aujourd'hui les jeunes ils voudraient 2200 euros.
Christian, mets-toi bien en face de ton téléphone parce qu'on te perd.
Les jeunes, vous voulez 2200 euros à 35 heures, à faire 8 heures, 17 heures. Bah non, c'est pas possible.
Sur ce sujet-là, il y a deux problèmes différents. Il y a effectivement cette incitation à travailler, et ça, je sais que Laurent, il aime pas cet argument-là, mais c'est quand même une réalité. Aujourd'hui, il y a une désincitation à travailler compte tenu des dispositifs. Et comment en vouloir à quelqu'un qui gagne plus en ne travaillant pas qu'en allant travailler. Donc
mais
ça,
je croyais que sous la droite,
ça a été corrigé.
Je croyais que sous la droite, on avait résolu ce problème.
Non, mais ça a été un peu corrigé, mais ça n'a pas été complètement corrigé. Et puis il y a un problème terrible d'adéquation entre les compétences des salariés et les besoins des entreprises. C'est pas normal d'avoir 3 millions de chômeurs et d'avoir à la fois une entreprise sur deux qui dit qu'elle a du mal en moyenne, qui dit qu'elle a du mal à recruter. Donc ça, c'est aussi quelque chose. Et là, c'est là où il y a un effort de formation à faire.
Éducation.
Alors, et ça, c'est un problème. Hervé Boulol, c'est un problème français, ce problème d'inadéquation entre offre et demande.
Non, c'est un problème français. Il est exacerbé en France puisqu'il y a des pays où à nouveau le taux d'emploi même des 60-64 ans est plus de 60%. En Allemagne, on est à J'avais des anti-sèches. Enfin, on est à largement plus élevé qu'en France, en tout cas. Donc, c'est un problème qu'on rencontre dans tous les pays, mais il est particulièrement aigu en France. Maintenant, ce qui a été dit, c'est, je suis d'accord qu'il y a deux questions différentes, mais c'est pas forcément les mêmes. Mais pour moi, deux points différents. Il est évident qu'il y a des métiers dans lesquels la lassitude pour travailler après 60 ans est plus forte que dans d'autres. Donc ça, c'est un fait. Et je vois pas très bien ce que le système de retraite peut faire par rapport à ça. C'est un problème. Et malheureusement, les solutions sont quand même compliquées. Et
il y a autre chose. C'est très simple. Permettre à un conducteur de travaux, à un type qui a travaillé toute sa vie sur les toits, de partir à 60 ans. Voilà, c'est simple.
Alors, il y a ça. Ou alors, ça peut être aussi quelque chose du type, on sait que ça va être compliqué. Et donc, la personne, si on pense, ce qui est de moins en moins le cas, où c'est une carrière à vie dans le même poste, c'est de moins en moins le cas. Mais si on pense encore de cette façon-là, on pourrait dire, ah oui, on a 40, 45 ans, on va se retrouver dans ce job-là à 60 ans. Et donc, on prend des mesures, soit pour se former à d'autres choses, soit pour rester dans le même secteur, mais changer de boulot dans le même secteur d'activité. Il y a quand même plein de possibilités qui sont faites dans plein de pays.
On ne peut pas être sur des métiers pénibles jusqu'à...
Voilà, on n'est pas obligé, on peut penser à...
Mais c'est ce que nous disait notre auditeur tout à l'heure, il faut quand même avoir été formé,
C'est pour ça que les mesures d'accompagnement sont importantes. Et maintenant, le deuxième point, je voulais dire quand même, c'était le cas du père de ce monsieur,
Christian,
de Christian, c'est effectivement, il y a des gens qui ne sont pas en incapacité, pas tout le monde, il y a des gens qui, à 60 ans, peuvent conduire des poids lourds. Il y a des gens qui sont en incapacité, et ça, normalement, c'est pas...
On doit prendre en compte le cas particulier.
Qui dire, c'est un docteur qui doit évaluer
je prends un exemple qui est l'exemple des militaires. Les militaires d'active, à partir de 45, 50 ans, ils peuvent prendre leur retraite. Et pourquoi on les autorise à prendre leur retraite? Parce qu'on considère que le travail qu'ils ont accompli sur le terrain, il ne peut plus s'accomplir à partir d'un certain âge. C'est très simple à comprendre. Mais on peut se poser la question de savoir pourquoi, dans certains métiers très difficiles, ou quand tu as, par exemple, été chauffeur poids lourd pendant 30 ans, peut-être que t'as le dos en miettes, que tu ne peux plus faire ce métier. Peut-être qu'il faut réfléchir à la
possibilité. Tu verrais l'argent que met l'armée dans la formation pour justement ces militaires et l'après-carrière.
Très bonne question.
Et ça se commence à partir du premier jour
Absolument,
où tu rentres dans l'armée.
Très très bonne remarque. Ce pays, je parle toujours sous le contrôle d'Emmanuel quand je cite un chiffre, on dépense 15 milliards d'euros en matière de formation. 80 ou 90% de cette somme va à la formation des gens qui ont déjà un travail. Et peut-être que le problème, c'est d'aider à se former ceux qui n'ont pas de travail, justement.
C'est pas du
90-10. Là, on est à 90-10.
La formation
aujourd'hui.
Des gens qui n'ont pas de travail, elle doit être faite en amont.
Oui, bah oui. Mais on n'y consacre que 10% de ces 15 milliards.
Mais tu comptes dedans toute l'éducation nationale?
Après l'éducation nationale.
On est avec Gilbert. Gilbert, lui, il est artisan maçon dans le bâtiment. Bonjour Gilbert.
Allô?
Oui, Gilbert, toi, tu as 60 ans et tu te verrais bien travailler plus longtemps ou pas?
Ah oui, moi, je me verrais travailler jusqu'à 63, 64, même peut-être 65.
Tu sens pas la pénibilité physique, ça va?
Pourtant, si, mais non, ça va.
T'as commencé à quel âge, Gilbert?
J'ai commencé à 18, à peu près.
Ah oui, donc t'as pas de problème de durée de cotisation, toi?
Mais non, mais bon, vous savez, quand on est moi, je les vois à la retraite, tous, il y en a certains. C'est l'antichambre de la faim. Quand on est à la retraite, on s'emmerde, on va sur Internet, c'est tout ce qu'on fait.
T'as pas des petits-enfants à garder? T'as pas de petits-enfants à garder, Gilbert?
Oui, j'ai un enfant jeune en plus.
Ah. Ouais. Donc t'as pas encore de petits-enfants, parce que c'est ça souvent le travail du jeune retraité.
Non, mais bon, Gilbert, il a envie de travailler.
Moi, je continuerai à travailler tant que je pourrai.
Ouais. Attends. Le système des retraites permet parfaitement à Gilbert de travailler autant d'années qu'il veut. Personne n'oblige les gens à arrêter de travailler à 60 ou 65 ans.
C'est cruel, elle vous envoie un papier qu'il vous faut prendre à la retraite.
Non, oui, mais t'es pas obligé.
Ton entreprise, elle peut commencer à te réduire.
C'est ton employeur qui dit, monsieur, c'est l'heure de prendre votre retraite, etc. Mais si tu as envie de continuer à travailler dans une entreprise qui souhaite te garder, tu peux continuer à travailler autant d'années que tu veux. Je crois que, si je dis pas de bêtises, c'est 70 ans, la limite. La limite, c'est 70 ans.
Bah écoute Gilbert, ça te laisse une belle perspective de travailler encore 10 ans. Merci beaucoup Gilbert d'avoir été avec nous. Un grand merci à Christian également qui était au 32-16 avec nous il y a quelques instants. Hervé Boulol, un grand merci de nous avoir accompagné pendant cette heure. Merci économiste à l'OCDE, responsable retraite et vieillissement démographique à la direction de l'emploi et des affaires sociales de l'OCDE. Justement, Lisa Marie, quel est le résultat des votes?
Vous êtes finalement 70% à avoir répondu comme Laurent Deman, non, il ne faut pas travailler plus. Et plus longtemps.
Ouais, mais la question était peut-être un peu facile de dire qui veut travailler plus longtemps.
Moi. Dès que je gagne, tout à coup, tu remets en cause mes règles. On dirait moi, c'est quoi ça?
La question a été posée. Bon, est-ce que. Oui, c'est vrai. J'attaque. Oui, c'est vrai. On dirait toi, c'est quoi ça? Je suis un petit peu de mauvaise foi. On va parler des hommes et des femmes tout de suite avec Lisa Marie.
RMC, Neumann Le Chypre.
C'est bon à savoir.
Lisa Marie, après MeToo, en Corée du Sud, les hommes lancent un mouvement de protestation pour dénoncer la haine des hommes.
Oui, ça s'appelle « Touche pas à ma virilité ». C'est un mouvement qui prend de plus en plus d'ampleur en Corée du Sud. Selon ces groupes de défense des droits masculins, le féminisme dit « radical » est désormais hors de contrôle et la haine des hommes est omniprésente dans la société sud-coréenne d'aujourd'hui. Et c'est pour se défendre qu'ils ont créé leur propre mouvement, appelé donc « Touche pas à ma virilité ». Le mouvement est suivi principalement par la génération Z, des hommes qui se sentent accusés à tort, muselés et surtout moqués. Et justement, en parlant de moquerie, à l'origine de ce mouvement, un emoji, celui du pouce et de l'index rapproché en forme de pince, un emoji que de nombreux hommes estiment moqueur à l'égard des sexes masculins de petite taille. Et oui, alors ça vous fera peut-être sourire, mais en Corée du Sud, l'image n'a pas du tout fait rire avec cet emoji. Il est même devenu un symbole qui cristallise les tensions. Les groupes de défense des droits masculins se sont lancés dans une véritable chasse aux sorcières et plusieurs employés de grandes entreprises du pays ont été sanctionnés pour avoir utilisé cet emoji, donc dans des affiches après des appels au boycott et des plaintes déposées, à l'heure où la Corée du Sud est l'une des premières puissances mondiales les plus en retard concernant la question de l'égalité homme-femme. De plus en plus de jeunes hommes estiment que le féminisme va trop loin et attribuent leur malheur non pas au gouvernement ou aux politiques, mais bien aux femmes. D'après une enquête d'ailleurs du Korean Women's Development, 65% des hommes âgés d'une vingtaine d'années ont affirmé que le féminisme était un mouvement de haine des hommes et 57% d'entre eux ont déclaré qu'ils étaient prêts à rompre avec leur partenaire si elle se revendiquait féministe. Donc plus de la moitié sont prêts à rompre si leur compagne se dit féministe. On parle bien sûr de la Corée du Sud, hein, je précise. Alors est-ce que vous savez comment on désigne le sentiment de mépris à l'égard des hommes, l'opposé de la misogynie?
Vas-y, la misandrie.
La misandrie. Oui. Tout à fait, la misandrie. Voilà, alors ce mouvement touche pas à ma virilité. Est-ce que vous pensez que ça va arriver jusqu'à nous?
C'est déjà le cas, hein. Ça existe déjà sur LinkedIn. Il y a beaucoup de gens qui veulent remettre les couilles au centre du débat.
Carrément, d'accord.
D'ailleurs,
comme ça.
Papacito, le blogueur dont on a parlé avec Mélenchon il n'y a pas très longtemps, c'est son projet aussi, remettre les couilles au centre du débat.
Bon, ben je vois que déjà. Le niveau progresse.
Mais tu ne te sens pas attaqué en tant qu'homme par les féministes?
J'entends, il y a des courants différents dans le féminisme, certains avec lesquels je suis en accord absolument total, d'autres avec lesquels je suis en désaccord, mais même ceux avec lesquels je suis en désaccord ne remettent pas, je n'ai pas l'impression que ma virilité est personnellement remise en cause, non?
Ouais, c'est quand même assez. Moi, je trouve qu'il y a une forme de désarroi finalement chez les hommes coréens, mais il y a quand même une forme de désarroi par rapport à certaines revendications des mouvements féministes. Je pense qui ont suscité cette réaction. Laurent, quand tu dis ça, je pense que c'est pas tout à fait vrai. Il y a des revendications dans les courants féministes aujourd'hui qui te désarçonnent, qui t'agacent.
Ah oui, avec lesquelles je suis en désaccord.
On va pas cacher la vérité. À nos téléspectateurs et nos auditeurs, c'est des débats qu'on a tous les jours entre nous, ouais. Avec Lisa Marie, avec Laure, etc. Et c'est vrai que
et contrairement à ce que dit Laurent, vous êtes désarçonné.
Oui, mais je le reconnais.
C'était pas ma question. Non, c'était pas ce que j'ai dit. Je suis en désaccord avec Laure sur tel ou tel sujet, peu importe. Pour autant, je ne sens pas que ma virilité est remise en cause.
Non, mais il y a des.
Mais c'est pas une critique. C'est-à-dire que le fait que la virilité soit remise en cause, c'est pas forcément un un problème, je pense que c'est une réalité. C'est-à-dire que quand tu changes complètement la manière dont la société était structurée et que tu commences à imposer l'égalité, ce qui n'était pas le cas, ça change tout le rapport à la virilité. Et je pense que ça a même un impact dans la sexualité aujourd'hui.
Alors, je dirais pas jusque-là. Pas chez moi, mais en revanche, on va dire les choses telles qu'elles sont. Il y a 2-3 jours de ça, on s'est engueulé, mais on s'est vraiment engueulé sur le thème le fait d'ouvrir la porte à une femme, c'est la remise en cause de l'égalité homme-femme. Qui sommes-nous, nous les femmes, pour passer forcément avant vous les garçons dans les restaurants, les lieux publics, etc. Bon, très
même
bien.
Dans l'ascenseur.
Tu as le droit de penser ça. Moi, j'ai été élevé comme ça. On ouvre la porte de la voiture, on ouvre la porte. En revanche, dans un restaurant, on rentre avant une femme pour une raison très simple, c'est qu'il faut que les premiers regards ne se portent pas sur elle, mais sur toi. Bref, on m'a appris toute une série de choses. Ça peut paraître totalement désuet, mais à l'âge que j'ai,
ça a un impact sur la virilité. La réalité, c'est
que
il y a des pays scandinaves aujourd'hui, si tu veux, dans lesquels, justement, les femmes se plaignent que les hommes sont devenus trop mous. Voilà, et donc elles essayent de faire des trucs. Non, mais ce que je veux dire,
je pense qu'il faut pas nier que le féminisme bouleverse absolument
et
tout
que, et que
dans
la revendication
société.
D'égalité stricte des droits entre les hommes et les femmes va jusqu'à impacter bien évidemment la virilité.
Nous n'avons plus besoin de protection.
La virilité n'est quand même qu'une expression de la domination qui a jusqu'à maintenant prévalu dans la société des hommes sur les femmes. C'est un des paramètres, c'est pas le seul, mais c'est un des paramètres bien évidemment.
En Corée du Sud, ça passe même par la colère, puisque quand un homme, quand 57% des hommes disent que s'ils ont une compagne qui se dit féministe, ils sont prêts à rompre parce qu'ils ne veulent pas avoir une compagne féministe, c'est quand même très fort.
Ah oui, mais quand on ne peut pas faire face, on prend la fuite. C'est aujourd'hui, non, c'est
comment
le forum.
Comment veux-tu que les hommes soient à l'aise aujourd'hui quand on entend, enfin, tu vois, il y a aussi une espèce de pression terrible.
Mais c'est dur. Mais parce qu'on est dans une période, un nouveau monde.
Non, mais tu veux dire que nous serions en train de vivre ce que les femmes vivent depuis des siècles.
La réalité, c'est que pour les hommes, c'est dur aussi.
C'est dur aussi. On fera un débat. Est-ce que c'est pas très dur d'être un homme en 2021? Il y aura énormément de choses à dire. Je rappelle que c'est le forum de l'égalité aujourd'hui. C'est organisé par l'ONU, c'est à Paris. Aujourd'hui, il y a plein de gens qui sont là. Hillary Clinton, la vice-présidente des États-Unis. Bon, je crois qu'elle est partie, mais ça n'est pas là en vrai. Mais en tout cas, c'est un événement aujourd'hui en France. Merci beaucoup, Lisa Marie. On peut retrouver C'est bon à savoir sur tous nos réseaux sociaux et sur rmc.fr. C'est la fin de Neumann le Chypre pour aujourd'hui. On se retrouve demain, midi 14h. C'est l'heure sur RMC de parler cyclisme pour cette nouvelle étape du Tour de France. Je crois que c'est en Mayenne. À demain, salut.
RMC, midi 14h.
Neumann le Chypre.